Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver sur Europe 1 pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat. Votre grand journal du soir, c'est parti avec à la une ce soir. Un pourcentage, 8,1%, c'est le taux de chômage au quatrième trimestre. Plus bas niveau depuis 2008, les chiffres et les explications dans votre journal. Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Ce taux peut-il encore baisser? Surtout comment l'expliquer? Je poserai ces questions à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle sera dans ce studio, mon invitée, à 18h20. 18h30, les grandes voix. On va notamment parler de ce sondage Europe 1 sur les motivations des Français pour ces municipales de mars prochain. Et puis à 19h30, on va s'intéresser à Mars, la planète Mars, avec une importante mission qui se prépare pour aller chercher encore et toujours des traces de vie sur cette planète. Alain Sirou nous rejoindra ici, que le spationauste Jean-François Clairvoy. Votre grand journal du soir démarre. On écoute ensemble Le Monde Changé jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne ferai aucun triomphalisme. Parce que quand on est encore autour de 8% de chômage, la bataille n'est pas gagnée.
Le chômage à son plus bas niveau depuis 12 ans. Pas de triomphalisme donc, mais le gouvernement estime qu'il peut réussir son pari et l'amener à 7% d'ici 2 ans.
Est-ce réaliste? Les réponses d'Emmanuel Duteil en quelques secondes et la ministre du Travail, vous l'avez compris, Emmanuel Pénicaud, à 18h20.
A-t-on sous-estimé l'ampleur de l'épidémie? La Chine dit-elle tout du coronavirus? Pékin revoit son bilan à la hausse. Nous passons ce soir le coup de fil du 18h au virologue Bruno Lina.
Dans ce journal également, les détails du grand oral, nouvelle épreuve du baccalauréat. Pas facile. Est déjà critiqué.
Sans notes et debout, on peut déstabiliser certains jeunes par ces obligations. Je ne vois absolument pas la nécessité. Ouais.
De nouvelles négociations sur les retraites, pas d'avancée sur la pénibilité, mais des annonces sur le mode de calcul.
Et puis l'hommage aux victimes de Furiani, il n'y a plus aucun match de foot professionnel le 5 mai.
C'est une grande satisfaction, un soulagement. Enfin, on va pouvoir commémorer la tragédie de Furiani comme il se doit.
La Bourse de Paris en léger recul ce soir de 0,19% à 6093 points.
Et du côté du ciel, bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. De bonnes nouvelles ce soir puisque demain, c'est une journée un peu plus calme qui s'annonce avec beaucoup moins de vent, beaucoup plus de soleil et tous les détails de ce vendredi dans le ciel à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'embellie du chômage se confirme donc, 8,1% fin 2019, après une baisse particulièrement nette au quatrième trimestre. La France compte donc 2 400 000 chômeurs, niveau le plus bas depuis 12 ans. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Voilà donc pour les chiffres qui font dire au gouvernement que sa promesse de ramener le chômage à 7% à la fin du quinquennat dans 2 ans est atteignable. Est-ce réaliste?
Oui, c'est atteignable, mais attention, hein. Atteignable, ça ne veut pas dire que c'est assuré. Alors pourquoi déjà c'est atteignable? Eh bien parce que la France crée des emplois et ça permet de faire baisser le taux de chômage. Et bonne nouvelle, on a moins besoin aujourd'hui qu'il y a quelques années de création d'emplois pour faire reculer le chômage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de moins de personnes qui entrent sur le marché du travail. Et si on crée des emplois, c'est parce que la croissance s'est plutôt bien tenue ces dernières années, et notamment l'année dernière. Il faut ajouter à cela les mesures du gouvernement, notamment sur l'apprentissage qui commence à porter leurs fruits. Un signe, hein, dans plus de 20 départements, le taux de chômage est déjà sous la barre des 7%. Vous avez même des départements qui sont quasiment en plein emploi. On peut citer la Mayenne, on peut citer le Cantal. Malgré tout, le gouvernement n'y est pas encore. En effet, la croissance donne là des petits signes de faiblesse. En quatrième trimestre, il y a même eu un très gros trou d'air. Et les doutes sont réels pour l'avenir à cause du coronavirus ou par exemple des guerres commerciales. Donc, sans être totalement à 7%, tout porte à croire que l'on ne devrait pas, malgré tout, être très loin de ces 7%. Si tout ne va pas trop mal d'ici à 2022.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, de l'optimisme donc quand même affiché ce soir et notamment du côté du gouvernement. La ministre du Travail Muriel Pénicaud répondra à mes questions à 18h20 dans ce studio.
Et cette baisse du chômage, le président de la République Emmanuel Macron vient de s'en réjouir.
C'est une très bonne nouvelle. Moi je note qu'en effet la baisse qui a été vécue et observée l'année dernière permet de montrer qu'il y a une efficacité des politiques qui sont conduites. Je crois avec les différentes mesures qui ont été prises de flexi-sécurité, de réforme de l'assurance chômage, avec les mesures qui ont été prises en faveur de l'apprentissage, de l'alternance, ben on commence à avoir des résultats. Donc il faut poursuivre l'effort. Moi je ne ferai aucun triomphalisme. Parce que quand on est encore autour de 8% de chômage, la bataille n'est pas gagnée. Donc je continue à avoir beaucoup plus d'ambition que rester à 8%, je vous le confirme.
Emmanuel Macron au micro d'Adrien Beck, c'était en marge de son déplacement en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc ce matin, pour constater en tenue de ski le recul de la mer de glace. Volontarisme affiché du président sur l'environnement, c'est le combat du siècle, dit-il.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h04, la suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'épidémie de Covid-19, le coronavirus, est-elle sous-estimée? La question soulevée ce soir après un bond spectaculaire du nombre de contaminations en Chine.
Et c'est notre coup de fil du 18h, bonsoir Bruno Lina.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes professeur de virologie à Lyon, grand spécialiste des maladies infectieuses. Il y a eu 15 000 nouveaux cas annoncés en Chine en 24 heures, 254 décès de plus. Plus forte augmentation journalière jamais connue. Pékin dit avoir changé son calcul et ça interroge. Est-ce que vous avez le sentiment que la Chine ne dit pas tout de ce virus ?
Non, en fait, la Chine est en train d'affiner un petit peu le calcul et finalement de nous donner des éléments qui sont peut-être un tout petit peu plus robustes par rapport à la réalité de l'épidémie là-bas. Vous savez qu'au départ, on a pensé que cette infection donnait essentiellement des formes très graves. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des formes qui étaient graves et modérées. Et petit à petit, on est en train de voir qu'il y a probablement des formes qui sont ce qu'on appelle aussi symptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui sont infectées, qui présentent quelques symptômes, qui cèdent assez rapidement, mais qui sont le reflet d'infections finalement pas graves. Et lorsqu'on a cette vision un petit peu plus large de ce qu'est la réalité de l'épidémie de coronavirus, eh bien on voit que finalement, si on ajuste les chiffres à ce que doit être la réalité de l'ensemble de ces panels d'infections, de très graves à pas graves, eh bien on augmente de fait le nombre de diagnostics.
Néanmoins, encore beaucoup de zones d'ombre autour de ce virus. Par exemple, il y a des doutes sur la période d'incubation. Est-ce qu'il peut être plus contagieux qu'on ne le pense ?
Plus contagieux qu'on ne le pense, probablement pas. Et pour ce qui est du délai d'incubation, on n'a aujourd'hui pas de données suffisamment robustes pour dire que ce que l'on a estimé aujourd'hui être la période d'incubation moyenne, c'est-à-dire entre 2 et 12 jours, que ceci ait vraiment changé par rapport au nouveau jeu de données que l'on a.
Juste une toute dernière question, Bruno Lina, très rapidement. On a appris hier qu'un couple de Chinois qui était hospitalisé en France a pu sortir. C'est encourageant, c'est intéressant aussi pour les chercheurs français de voir des patients qui guérissent de ce virus ?
Ah ben quand même, l'immense majorité des gens vont guérir de ce virus et ce qui est très bien, c'est qu'effectivement on a une guérison à la fois clinique et biologique de ces patients. Ils sont sortis parce qu'ils n'ont plus de virus et ils ont éliminé le virus, leur système immunitaire l'a complètement éradiqué. D'autres patients français vont bientôt sortir aussi, donc ça permet de voir qu'on est capable de prendre en charge cette maladie.
Merci beaucoup Bruno Lina, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, professeur de virologie à Lyon et chercheur au sein du CIRIS et le Centre international de recherche en infectiologie.
Et on apprend d'ailleurs qu'un troisième patient est sorti de l'hôpital, on l'apprend ce soir, un Bordelais d'origine chinoise. Il avait été le premier cas détecté en France. Aujourd'hui, les 27 ministres européens de la Santé se sont réunis à Bruxelles pour coordonner leurs actions. Une commande groupée d'équipements de protection va être lancée.
Sur le dossier des retraites maintenant, bien, ça n'avance pas beaucoup. Nouvelle réunion de négociation aujourd'hui à Matignon entre gouvernement et syndicats et toujours pas de consensus sur la prise en compte de la pénibilité.
En revanche, il y a une mesure qui a été annoncée. Olivier Samin, bonsoir.
Bonsoir Sébastien.
Ça concerne le mode de calcul. On appelle ça la clause à l'italienne. Elle avait déjà été actée pour les régimes spéciaux, mais elle sera étendue à tous, y compris dans le privé. Expliquez-nous. En quoi consiste cette clause à l'italienne ?
Alors le sujet concerne tous ceux qui sont nés après 1975 et dont la carrière va chevaucher les deux systèmes de retraite. L'actuel système, où les droits à la retraite se calculent en trimestre ou sur les 6 derniers mois si vous êtes fonctionnaire, et le futur système qui se calculera, on le sait, en points. La clause à l'italienne consiste à calculer vos droits acquis avant le 1er janvier 2025, donc dans l'ancien système, non pas au moment de la bascule de 2025, mais au moment où vous partirez à la retraite, par exemple en 2037, 2038 ou plus tard. Et ce calcul se fera comme si la règle des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois s'était appliquée jusqu'au bout de votre activité professionnelle. Pour les personnes concernées, c'est plus avantageux que la règle prévue initialement dans le rapport de Levoy, qui proposait que, pour les fonctionnaires par exemple, on s'appuie sur les 6 derniers mois que vous avez effectués avant la bascule de 2025, sachant que ces 6 derniers mois se situeront au milieu de votre carrière et que votre salaire sur cette période ne sera pas aussi élevé que celui que vous toucherez réellement lors des 6 derniers mois de votre activité professionnelle. Voilà pourquoi la mesure qui concernera, on le rappelle, tout le monde, salariés du public et du privé, a été bien accueilli par l'ensemble des syndicats.
Voilà, Olivier Samin du service économie. C'est compliqué,
mais
ce qu'on comprend, c'est que c'est une concession et que c'est avantageux pour nous.
C'est ça.
Voilà, on va conclure.
C'est l'essentiel,
ça.
Au fond.
En tout cas, ça continue de grincer dans la majorité. Ce soir, 5 députés de l'aile gauche de l'REM déplorent des avancées insuffisantes dans les négociations.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Debout face au jury, à quoi va ressembler le futur grand oral du bac et risque-t-il d'avantager certains élèves? Les questions et les réponses, c'est dans un instant.
Et puis l'hommage aux victimes de Furiani, plus aucun match de football désormais le 5 mai.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ah là là, cette épreuve du bac, ce nouveau bac et ça est sans doute la plus marquante, les détails du futur grand oral qui va faire mal. Hein,
oui,
on
debout,
peut dire, ont été dévoilés.
Oui, debout et sans notes, hein, ça sera pire que pendant le journal, face à un jury. À 17 ou 18 ans, on peut imaginer que ça puisse être impressionnant quand même et ça suscite des interrogations. Bonsoir Victor Delorme.
Bonsoir.
Parce que ce sera un gros coefficient, cet oral.
Oui, cet oral de 20 minutes sera crédité d'un coefficient 10. C'est plus que la philosophie, coefficient 8, et un peu moins que les deux épreuves de spécialité, elles-mêmes créditées d'un coefficient de 16. Ce grand oral, c'est une nouvelle pierre de la réforme du baccalauréat voulue par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et une nouvelle fois, les critiques pleuvent. La principale, c'est l'inégalité que cet oral pourrait créer entre les élèves. Tout le monde n'a pas les mêmes facilités à l'oral. Et pour Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU, les professeurs vont avoir beaucoup de mal à préparer leurs élèves.
On voit bien qu'on a des programmes qui sont extrêmement chargés, puis la réforme, et qu'il y a peu de temps possible pour entraîner, habituer les élèves à la prise de parole et à une prise de parole qui soit construite, argumentée, claire.
Alors, l'autre critique, c'est cette obligation de faire passer cet oral aux candidats de terminale debout et sans notes, vous l'avez dit. Ça va déstabiliser de très nombreux élèves, estiment les syndicats. Et ça va pousser les autres à recracher un exposé par cœur. Ces oraux très contestés, vous l'aurez compris, débuteront lors de la session du bac 2021, c'est-à-dire l'année prochaine.
Les précisions de Victor Delorme du service Société d'Europe 1.
Une épreuve qui n'est pas conçue pour faire échouer les élèves. Hein. Il est droit dans ses bottes, Jean-Michel Blanquer, de fait. L'Australie qui entrevoit la fin d'un terrible été, tous les incendies sont enfin maîtrisés.
Hein. Oui, car après la sécheresse, le pays a connu ces derniers jours les plus fortes précipitations de ces 30 dernières années. Et puis en Grande-Bretagne, c'est un poids lourd qui a claqué la porte du gouvernement de Boris Johnson. Son ministre des Finances, Javid, il démissionne visiblement en raison de désaccords sur le budget. Premier remaniement depuis le Brexit qui pourrait ouvrir la voie à un vaste plan de soutien à l'économie britannique.
C'était le 5 mai 1992 en Corse, scène d'horreur en plein match au stade de Furiani près de Bastia lorsqu'une tribune s'effondre.
18 morts ce jour-là et plus de 2300 blessés. Et aujourd'hui, un vote à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Si le Sénat le confirme, plus aucun match de football professionnel ne sera plus jamais joué en France. À cette date du 5 mai, c'est ce que réclamait depuis très longtemps le collectif des victimes que préside Josefa Giudicelli.
C'est une grande satisfaction, un soulagement. Enfin, on va pouvoir commémorer la tragédie de Furiani comme il se doit. Rien n'a été facile, bien au contraire. On s'est heurté à des murs par rapport aux instances du football. Mais voilà, aujourd'hui, la représentation nationale nous a enfin entendus. On s'est toujours battu et on a toujours défendu la mémoire de ces victimes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement. Enfin, on va pouvoir être apaisé. On nous a entendus. C'est très important.
La présidente du collectif des victimes de Furiani, jointe par Christophe Lamar. L'actualité sportive du jour se joue en Italie, début des championnats du monde de biathlon. Et ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Français, hein, qui finissent 7e du relais mixte, victoire de la Norvège. On y reviendra à 19h.
Merci beaucoup Sébastien Krebs avec de nouvelles infos donc dans ce studio tout à l'heure. Anissa, retour d'un temps calme demain.
Ça y est, enfin, c'est vrai que la semaine a été mouvementée. Hein, tempête Kira, tempête Inès... Bon, on va souffler un petit peu demain, avec encore, demain matin sur la façade est, quelques petites averses le matin. C'est cette perturbation qui est en train de nous quitter doucement. Sur le Jura et les Alpes, quelques flocons encore à partir de 1000 mètres demain. Et puis du nord à l'Occitanie, là, le ciel est couvert, mais le temps reste sec. Et puis dans l'après-midi, c'est vraiment demain après-midi que la journée sera agréable. Le ciel va se dégager demain après-midi avec sur le nord, le centre-Val-de-Loire, le bassin parisien, l'Aquitaine, le massif central et l'Occitanie, ainsi un petit peu nuageux, mais de belles éclaircies. Là où la journée sera la plus belle, Nathalie, c'est le long de la Méditerranée. Bizarrement. Voilà. Du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur. Là, vraiment, c'est une journée très ensoleillée avec des nuages très peu présents. Le vent de nord-nord-ouest souffle demain dans le sud jusqu'à 70 km/h. Les températures fraîches demain matin, 2 à Valence et Avignon, 3 à Lille, 5 à Lyon, 7 à Périgueux et Paris et 9 à Bordeaux.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Il faut remonter à 2008, soit il y a 11 ans, pour retrouver un tel niveau. Le taux de chômage qui s'établit à 8,1% au quatrième trimestre en France. Comment expliquer ce taux avec une croissance en baisse? Ce taux peut-il encore descendre? Et à quel prix? Des questions que l'on pose à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle s'installe dans ce studio dans moins de 2 minutes.
Mais vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, le taux de chômage a donc nettement baissé au quatrième trimestre 2019 en France. Il est passé de 8,5 à 8,1%. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2008. Nathalie, pour décortiquer ces résultats, vous recevez ce soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Bonsoir Muriel Pénicaud.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans ce studio. Ils sont bons ces chiffres. Hein. En France métropolitaine, on est même passé sous la barre psychologique des 8%. Vous ne boudez pas votre plaisir aujourd'hui.
Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Et moi, ça me frappe depuis ce matin, le nombre de personnes, notamment les moins de 40-45 ans, qui me disaient « mais nous, on croyait que le chômage de masse, c'était une fatalité pour toujours ». Et là, on est en train de se prouver collectivement que ça n'est pas une fatalité. Le chômage baisse fortement, la barre des 8% en métropole a été franchie. Et ça va continuer parce qu'il y a des tas de raisons structurelles à ça et les réformes ont des résultats. Mais je crois que l'élément le plus important, c'est de se dire il n'y a pas de fatalité, on va continuer et c'est l'intérêt des Français. Il y a 400 000 demandeurs d'emploi de moins. C'est autant de personnes, autant de familles dont la vie a changé. Et
alors, il n'y a pas de fatalité, vous allez continuer évidemment parce qu'il y a un objectif qu'a donné Emmanuel Macron, on va y venir dans un petit instant. Mais comment vous l'expliquez quand même cette forte baisse aujourd'hui?
Alors, je crois que les réformes ont des effets parce qu'elles collent de façon très pragmatique à la réalité du terrain.
L'apprentissage.
On n'a jamais embauché autant de CDI, hein, c'est 4 200 000 en 2019, on n'en a jamais embauché autant dans notre pays. On n'a jamais formé autant d'apprentis, c'est près d'un demi-million d'apprentis avec la réforme de l'apprentissage que j'ai eu l'honneur de porter. C'est la formation des demandeurs d'emploi. On a formé près d'un million de demandeurs d'emploi, on va en faire encore plus l'année prochaine. Or, une entreprise sur deux cherche des compétences. Donc, quand on permet aux demandeurs d'emploi, y compris de longue durée, de chômeurs de longue durée, d'avoir les compétences dont ont besoin les entreprises, c'est à la fois très pragmatique et très puissant. Et puis, on investit aussi pour aider les plus vulnérables, parce que plus le chômage baisse et plus ceux qui restent avec des difficultés, il faut plus les aider et on a des opérations marche-pied. En même temps, on a baissé les charges patronales et salariales avec Bruno Le Maire. Et donc, du coup, on a un ensemble cohérent qui permet d'avoir un espoir tout à fait significatif que le chômage va continuer à baisser.
Alors c'est ça.
On a
c'est
une croissance à 1,2, mais elle est plus riche en emplois, comme on dit, qu'autrefois, parce que de façon très pragmatique, on a répondu aux besoins du terrain. Moi, je me rappelle qu'on a fait la réforme du Code du travail. Les entreprises ont dit on n'a plus peur d'embaucher.
Tout à fait.
Maintenant, elles disent la clé, c'est les compétences. On a investi sur les compétences. Donc, ça donne de l'espoir pour la suite.
Alors, l'espoir, parlons-en. L'objectif du président de la République, c'est de passer sous les 7%. Très clairement, il l'a dit en début de mandat. Donc, aujourd'hui, ça peut être à portée de main. Ça vous semble accessible?
Alors, c'est jamais mécanique, c'est jamais fait d'avance. Donc, il faut rester concentré, il faut continuer à engranger l'impact de ces réformes. Mais je crois que oui, c'est atteignable si on continue bien sur ces sujets-là, sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Il y a déjà des effets. Il y en aura plus demain, puisque ça a grandi. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage. Et il y a l'accompagnement des entreprises qui est fait sur le plan économique par la loi Pacte. Donc je crois qu'on en a encore sous le pied et qu'avec un taux de croissance qui est robuste, sans être très élevé, néanmoins, on arrive à faire baisser le chômage et on pourra encore continuer. Le plus important, c'est de le faire partout sur le territoire.
Et d'ailleurs, on pourra noter aussi que déjà dans 24 départements, on est passé sous la barre des 7%. Alors ça, c'est significatif.
Entre 5 et 7%. Pour 24 départements, donc notre but, c'est tous les départements.
Voilà. Mais quand même, Madame Pénicaud, que répondez-vous à ceux qui pointent une baisse du chômage trompeuse, qui tient aux radiations, à la réforme de l'assurance chômage qui a durci les conditions, aux fins de droit condamnés au statut d'auto-entrepreneur qui gagne à peine le RSA? Ils existent aussi?
Alors moi, je réponds très concrètement que la réforme de l'assurance chômage, elle commence à se mettre en œuvre depuis le mois de novembre, en janvier et en avril. Il y a encore très peu d'effets et ces effets seront positifs parce que notamment ça va permettre de lutter contre la précarité excessive. On ne veut pas simplement plus d'emplois, mais mieux d'emplois, c'est-à-dire plus de CDI et ça permet d'avoir d'être mieux payé, d'avoir des carrières plus meilleures. Donc ça, c'est un des sujets. La deuxième
D'accord.
chose,
les saisonniers,
les radiations n'ont pas augmenté, donc là, c'est un faux procès.
C'est un faux procès, mais alors, ok, alors le travail occasionnel, les saisonniers, le sous-emploi.
Oui, ben justement, c'est
alors,
un de mes combats.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben justement, ce qu'on avait constaté, c'est que 9 embauches sur 10, c'était des emplois précaires. CDD de très courte durée, mmh. parfois moins d'une journée, hein, pour un tiers d'entre eux, c'est, on marche sur la tête, et de l'intérim court également. Donc, un des buts de la réforme de l'assurance chômage, c'est effectivement de lutter contre cette précarité qui n'est pas justifiée économiquement et qui est terrible socialement. Donc, l'ensemble
Donc,
des mesures qu'on fait,
ouais.
ben, on accompagne de façon très renforcée les demandeurs d'emploi qui ont des jobs comme ça qui sont très précaires, pour leur permettre de pouvoir accéder à des emplois
durables,
plus pérennes, et d'ailleurs, ils sont
rémunérés.
En général plus qualifiés et mieux payés. Ça va ensemble. On responsabilise les entreprises, parce que les bonus-malus, ça sert à ça, les responsabiliser pour qu'elles aient intérêt à avoir des contrats plus longs. Et puis, on investit énormément sur la formation, 15 milliards d'euros pour former 2 millions de personnes en 5 ans. Et ça, c'est très important, parce que les métiers changent et il faut donner sa chance à chacun. D'ailleurs, l'appli formation qu'on a lancée au mois de novembre démarre aussi très fort
très
et elle
fort.
Fait partie de cette stratégie.
Madame Pénicaud, j'aurais deux questions annexes. La réforme des retraites, on ne peut pas ne pas en parler parce que la polémique, elle continue avec deux élus La République En Marche, piliers de la Commission des Finances, qui ont listé 16 questions sans réponse, des questions à Édouard Philippe à plusieurs milliards d'euros. Comment c'est possible ce flou sur le financement à ce stade? À ce stade
Alors,
de la réforme.
Moi, j'étais auprès du Premier ministre tout à l'heure avec les partenaires sociaux. On a fait un point d'étape sur où on en est des concertations sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, la gestion des fins de carrière dans le secteur privé, dans le secteur public. Tout ça, c'est des sujets qui sont importants parce qu'ils font partie du sujet de à quel âge je pars et dans quelles conditions et qu'est-ce qui se passe si j'ai des métiers pénibles. Et ça, ça a des incidences sur le financement. Donc, il est sain et normal que les députés disent ben, on veut en savoir plus, mais en même temps les hypothèses, elles se précisent à fur et à mesure de la conférence de financement.
Quand est-ce qu'on aura les réponses?
Il y a des sujets qui ne relèvent pas du financement, sur lesquels on peut aller avancer assez vite, et le Premier ministre a annoncé des sujets qu'on prenait tout de suite. Les sujets qui ont un coût significatif, bien sûr, il faut l'intégrer dans le financement global pour que ça soit durable. Ça, c'est l'intérêt notamment des prochaines générations. Il faut faire un système qui est solide.
Les polémiques, elles s'enchaînent. Pardonnez-moi, mais les polémiques, elles s'enchaînent. Même si là, aujourd'hui, il y a une vraie bonne nouvelle sur le chômage. Le congé après le décès d'un enfant, Édouard Philippe a volé à votre secours, celui des 37 députés qui avaient refusé cet allongement de 5 à 12 jours. Je voudrais juste, maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, en quelque sorte, vous, Madame la Ministre, alors que la concertation est en cours, comment avez-vous vécu, vous, cette séquence, sans
alors,
langue de bois?
Sans langue de bois, c'était très violent, parce que moi, je suis... Mon engagement est social avant tout, il est social et économique, et donc je ne me suis pas reconnue dans ce qu'on disait de moi, et c'était violent. Mais ça, ce n'est pas le plus important.
Vous vous êtes posé la question de quitter votre ministère?
Un sujet, non. Non, parce que moi je crois au mandat qu'on a, je crois qu'on est en train, sur le plan social et sur le plan économique, de faire monter en puissance, monter le pays. Je contribue à ça. Et donc, en revanche, je voulais vous dire que cet après-midi aussi, j'étais avec Adrien Taquet. On a revu toutes les associations. Je peux vous dire que la tonalité générale, c'était on ne pensait pas qu'on pouvait aller plus loin. En fait, grâce, malheureusement, par rapport à ce débat, mais peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui va être beaucoup plus important pour les parents en deuil. Ils le disent tous. Ils le saluent. Et moi, je pense qu'à la fin, les polémiques, vous savez, on les oubliera. Mais on n'oubliera pas que la nation, elle soutient vraiment les parents en deuil dans ce qui est probablement le plus tragique dans la vie. Et moi, je suis centrée là-dessus avec Adrien Taquet, avec le gouvernement. Le reste, on l'oubliera.
Le reste, on l'oubliera, mais peut-être que Laurent Berger ne l'oubliera pas. Pourquoi il est parti mercredi? Il a claqué la porte. Il dit que tout est déjà plié sur le congé et que de toute façon, on vient lui annoncer des choses, qu'il n'y a même plus de concertation. Et il y a encore demain, il y a un nouveau rendez-vous.
Il y a un nouveau rendez-vous des partenaires sociaux. La plupart viennent.
Il sera là, Laurent Berger.
Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement n'a pas pris position, donc rien n'est plié, parce que nous n'avons pas exprimé la position.
Les députés, sur les trois semaines, Mme Pénicaud, on est quand même très avancée.
Dans le rôle. Les députés, c'est normal, ils font des propositions, c'est un débat parlementaire. Je rappelle que ce n'est pas une proposition de loi du gouvernement, mais d'un Parlement. Et on est en train de travailler, d'ailleurs, avec différents groupes de l'opposition. Nos députés travaillent de façon transpartisane, parce que vous savez, sur un sujet comme ça,
bien sûr.
Je crois qu'à un moment donné, la polémique, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on est solidaire, comment on soutient ses parents d'œil.
Il sera là,
c'est
Laurent
la
Berger.
Chose qui compte.
Il sera là, Laurent Berger, de la CFDT, demain, autour de la table.
C'est lui décider.
Un dernier mot, on a peu de temps malheureusement. Mardi, avant-hier, à l'Élysée, Emmanuel Macron tentait de requinquer les parlementaires de sa majorité. Le président avait prononcé cette phrase. Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. Hein, vous vous souvenez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en l'occurrence François Hollande, ancien président de la République. Il a réagi, il est préférable de savoir de quoi on parle en politique.
Je crois que
lui répondez-vous ?
Je crois que les gens ont mal compris cette phrase, parce que qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que l'irruption de très nombreux députés qui venaient de la société civile, qui n'étaient pas des professionnels de la politique à vie. Et je crois que les Français, ils en ont marre des gens qui font toute leur carrière dans la politique et qui, du coup, ne pensent qu'à être élus et n'ont pas toujours à servir. Et je crois que l'ouverture qui a été très forte, notamment dans La République En Marche, elle apporte quelque chose. Moi, je le vois, j'ai porté 3 lois au Parlement. Je peux vous dire que d'avoir des députés qui parlent de la vraie vie, ça apporte, et c'était le sens de cette phrase, je crois qu'il a voulu les conforter, que leur expérience de vie professionnelle, personnelle, très diverse, ben ça a apporté au débat politique. Je pense que c'était le sens de ses propos.
C'était le sens de ses propos, nous dites-vous. Merci beaucoup Muriel Pénicaud d'être venue ce soir dans le studio d'Europe 1, ministre du Travail. Merci beaucoup.
Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite du programme Nathalie Lévy.
Le débat des grandes voix au programme ce soir, notre sondage exclusif BVA pour Europe 1 et Orange sur les préoccupations des électeurs pour ces municipales, c'est dans 4 semaines, et puis les suites du coronavirus avec des conséquences économiques.
Et vous pouvez poser toutes vos questions aux grandes voix, n'hésitez pas à réagir en direct au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Un troisième patient atteint par le coronavirus est sorti de l'hôpital, un Bordelais d'origine chinoise. Il avait été le premier cas détecté en France, il annonce être totalement guéri. L'OMS se veut rassurante, pas de changement significatif dans la progression de l'épidémie, disent les experts, après la forte augmentation du bilan en Chine. Le chômage au plus bas niveau depuis 12 ans, pas de triomphalisme, réagit Emmanuel Macron ce soir. Il salue l'efficacité des politiques conduites, mais la bataille n'est pas encore gagné, dit-il. Nouvelle journée de négociations sur les retraites, mais toujours pas d'avancée sur la pénibilité. Point crucial, dit la CFDT, qui dénonce le blocage du patronat. Des renforts de police envoyés en Martinique. Lille connaît une augmentation des violences et du nombre d'homicides. Et puis 5 mai, décrété jour de deuil pour le football français, 27 ans après le drame du stade de Furiani. Les députés ont approuvé à la quasi-unanimité l'idée de ne plus jamais organiser de match de foot professionnel en ce jour anniversaire.
Merci Sébastien. 19h, de nouvelles infos avec vous. Anissa, une journée agréable demain ?
Oui, enfin, ça y est, oui, une journée agréable avec un temps sec. Alors attention, demain matin, il reste encore quelques petites parties de la France où nous allons avoir quelques gouttes. C'est la façade est qui sera touchée par quelques averses demain matin. Sur le Jura et les Alpes, il tombe quelques flocons, mais dans l'après-midi, c'est le retour d'un temps sec, avec même sur le sud-ouest et tout le sud, toute la vallée du Rhône, le long de la Méditerranée, un temps très agréable, très peu de nuages et un soleil qui brille à peu près partout. Les températures, 2 degrés à Valence et Avignon, 3 à Lille, 5 à Lyon, 7 à Paris et 9 à Bordeaux, ça c'est pour le matin. Dans l'après-midi, nous aurons 9 à 14 de manière générale et 15 à 20 degrés au bord de la Méditerranée. 2 départements, je vous le rappelle, sont toujours placés en vigilance orange pour crues et inondations, la Seine-Maritime et l'Eure.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Mickaël Darmon et Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA.
Bonsoir et bienvenue les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue à vous particulièrement parce que on va regarder de très près votre sondage. On va le décortiquer, ce sondage, à un peu plus de 4 semaines maintenant des élections municipales. Alors, il y a beaucoup d'enseignements évidemment à en tirer, vous allez nous expliquer. 66% d'abord des Français se disent intéressés par cette élection. Heureusement, j'allais dire.
Et oui, encore, c'est pas énorme.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme, c'est pas énorme à peu près un mois d'un premier tour d'élection municipale, c'est pas énorme. Il faut se souvenir qu'en 2014, on avait vécu une baisse de la participation aux élections municipales, qui reste une des élections les plus participantes, mais on était passé sous les 2/3. On était à 63,5, si mes souvenirs sont exacts, et donc avec quelques points de moins, et c'était quelque chose d'assez régulier. Donc 66%, ça montre un intérêt, je crois, pour, on va dire, les municipales, pas forcément pour la campagne. C'est-à-dire, c'est pas forcément pour l'aspect le plus politique. On est proche de son maire ou on est contre son maire. On est en tout cas impliqué sur la vie municipale, mais pour autant, est-ce que le jeu politique est vraiment encore ouvert ? Pas complètement.
Mickaël Darmon et Catherine.
Non, moi je trouve ce sondage assez cohérent. Dans le fond, c'est à la fois
les Français connaissent leur maire, l'aiment bien. Oui. S'il a bien géré, ouais. il serait plutôt prêt à, en grande majorité à lui redonner ses chances et même à revoter pour lui. Et on voit surtout ce qui est intéressant et là qui est tout à fait lié à la politique actuelle, c'est que l'impact de la réforme des retraites sur le scrutin. Là, ça va sûrement pénaliser fortement. Ça alors, va conditionner, non
vous Non, je serais un peu plus modéré. Parce que,
ah bon, parce que moi je l'ai lu comme ça.
Écoutez, c'est bien qu'on en discute. Moi, je trouve d'abord que les Français, vous avez raison, hein, on est dans un contexte qui est très particulier. Le contexte des élections municipales, c'est un contexte où vous avez des élus sortants qui, en moyenne, alors il y a des plus et des moins naturellement sur les 36 000 communes de France, mais 70% et plus de satisfaction, c'est quelque chose que n'importe quelle politique aujourd'hui aimerait.
Moi, j'imaginais même pas que ça fasse autant, vous voyez.
Si, c'est vrai que c'est le niveau est assez haut, donc il y a une forme d'attachement, on part sur un contexte un peu particulier. Ensuite, ils nous disent qu'ils vont d'abord, alors ils se la racontent peut-être un tout petit peu les Français, en disant qu'ils vont d'abord voter localement, voilà. Que c'est alors, ça qui est le plus important.
Permettez-moi de vous interrompre juste pour donner quelques chiffres, effectivement, et pour quand même être un tout petit peu précis. Ils sont 9 Français sur 10 aujourd'hui, hein, à dire que c'est l'avenir de leur commune en tête qui comptera le plus locaux. Au moment de glisser leur bulletin dans l'urne, effectivement, les enjeux locaux. Bah, là-dessus, il n'y a pas de surprise, à vrai dire, non ?
Il n'y a pas de surprise. En général, on a tendance à entendre ça dans les sondages, dans les enquêtes, lorsqu'on interroge les Français sur « bien sûr, c'est une élection municipale, donc bien sûr, je vais voter localement ». Ensuite, quand vous regardez l'histoire des élections municipales, vous apercevez, malgré tout, prenons simplement 2014, que c'est quand même l'occasion pour les Français, et donc pour quelques pourcentages, là je rejoins Catherine, de dire des choses, de dire que l'on est contre. Souvenez-vous, 2014, c'est la première claque, j'allais dire, pour le gouvernement pour François Hollande avec une victoire de la droite qui annonçait effectivement d'autres défaites, en tout cas de la gauche. Là où je serais plus mesuré, c'est que oui, sans doute, pour un certain nombre, ils sont minoritaires, à peu près un quart de la population qui disent « oui, je vais me servir malgré tout de ce scrutin pour exprimer quelque chose et plutôt pour être contre ». Pour cette population-là, malgré tout, on peut se poser la question de comment ils vont faire. Comment est-ce que vous voulez faire pour sanctionner
les maires ? Puisqu'il n'y a pas de sortant de maire.
On va dire en ne favorisant pas peut-être ceux qui se revendiquent le plus clairement, et tout ça n'est pas si clair que cela, de La République en marche. Et à l'inverse, effectivement, en favorisant ceux qui se sont montrés en opposition autour notamment du sujet des retraites.
Michaël Darmon, quelle lecture vous faites ? Il y a plusieurs choses, plusieurs items, évidemment. On l'a dit, 9 Français sur 10 qui pensent local. Il y a aussi, on va le voir, les préoccupations premières, les impôts locaux qui arrivent largement en tête pour 32% des sondés. Voilà une des thématiques fortes, la sécurité qui arrive encore plus haut.
En fait, ce sont des thématiques locales qui ont toutes des résonances nationales. C'est-à-dire que sécurité, impôts locaux et environnement, eh bien, ce sont les trois sujets qui sont au sommet de l'agenda national. Et les Français qui, effectivement, savent adapter leur regard, leur intérêt et leur vote en fonction de la caractéristique de l'élection, du scrutin, on va dire, déclinent localement les préoccupations nationales. Donc, de ce point de vue-là, on est
dans les clous.
Et surtout, on est dans ce que, effectivement, Edouard commençait à expliquer, on est dans une résonance nationale d'un scrutin, certes local, mais il est étalé sur l'ensemble du territoire et qui, il est aussi l'émanation de familles politiques et d'accords d'appareil dont on verra à quel point ils sont très actifs entre les deux tours. Bien évidemment, c'est une élection nationale. Et on a pris l'exemple de 2014. Si ça avait été uniquement une élection locale, alors pourquoi Jean-Marc Ayrault aurait-il été changé après la campagne et après le résultat des élections municipales ?
On continue d'en parler de votre sondage, Edouard Le Serre, évidemment directeur général adjoint du groupe BVA, sur ces municipales dans moins d'un mois maintenant. On poursuit dans un instant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Michaël Darmon et Edouard Le Serre, le directeur général adjoint du groupe BVA. Et toutes vos questions en direct, n'hésitez pas, 39-21.
Ce sondage, donc, à moins d'un mois maintenant des municipales, on le disait, 66% des Français se disent intéressés par cette élection. Ils sont formels, c'est bien un maire qu'ils choisiront le 15 mars prochain. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu les préoccupations, les thématiques qui préoccupent le plus les Français pour ces municipales. Je le disais, la sécurité arrive en haut, première place du podium avec 35%. Voilà ce que veulent les Français. Ils veulent que la situation dans leur commune soit améliorée au quotidien. Ensuite, les impôts locaux. Et puis ensuite, l'environnement thématique qui préoccupe de plus en plus. On l'a vu aux européennes, on le voit régulièrement. eh ben ça y est, ça s'installe véritablement.
Oui, clairement, par rapport à 2014, encore une fois, les préoccupations voient l'émergence, quel que soit aujourd'hui le sujet sur lequel vous pouvez interroger les Français, c'est aujourd'hui quelque chose qui vient déborder, imbiber, infuser dans l'ensemble des préoccupations. Et là, que ça se retrouve au niveau local, c'est normal, j'allais dire, d'une certaine manière, et c'est renforcé par le fait que pour les Français, j'allais dire, les élections municipales ou la municipalité, c'est... sans faire de mauvais jeu de mots, le circuit court de la politique. C'est-à-dire, c'est là où ça peut se passer. C'est là où on voit les choses. C'est là où les choses sont tangibles. Donc, on se dit que oui, il peut y avoir des grandes mesures au niveau national, voire international, pour améliorer les choses, pour aider les populations à mieux comprendre quel est l'impact du réchauffement climatique, par exemple. Mais le niveau local, c'est le niveau très concret. C'est le niveau où on va trier, le niveau où on va faire attention, on va avoir des équipements qui seront plus respectueux. Donc, il est assez logique, en plus d'une préoccupation nationale, que localement, eh bien, ça arrive en troisième position parmi les préoccupations.
Quelle arme.
Et même politiquement, on verra dans quelle mesure cette préoccupation sociétale va avoir son effet sur les articulations des coalitions de gouvernement qui vont en fait tout simplement aussi donner le signal d'une forme de recomposition à gauche. Vous avez notamment des bastions communistes qui sont aujourd'hui menacés par des coalitions écologistes, socialistes, progressistes et autres qui certes ont tous des étiquettes locales mais sont l'émanation quand même de ces nouvelles articulations. Quand on entend ceux qui se préparent à éventuellement vouloir revenir pour 2022 du côté de la gauche, ils se disent ça sera autour forcément, de force écologiste.
Ouais. Catherine Ney, il y a eu ces propos d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il disait « Je considère que ces élections municipales, ce n'est pas une élection nationale et je n'en tirerai pas de manière automatique des conséquences nationales. » Manière de se protéger, évidemment, des résultats. Pour autant, on découvre qu'il n'y aura pas, a priori, de dégagisme qui va souffler sur ces élections, a priori.
Vous 71% dire, vous des Français. Quoi là, Nathalie?
Non, à la fois les candidats qui sont macronistes et qui y vont, comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin, et puis à la fois cet ancrage qui n'existe pas pour les marcheurs.
Il y a des candidats marcheurs dans beaucoup de villes. Donc je suis pas sûre que. D'abord, je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à constituer des listes. Et je ne suis pas sûre qu'il remporte beaucoup de mairies, ça, on le sait. Mais là, vous parliez tout à l'heure des Verts. Ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant qu'il n'y a plus, et surtout pour les municipales, il n'y a plus cette division droite-gauche, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? C'est le Vert, c'est-à-dire c'est simplement l'écologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de conversation permanent. Et c'est quand, chaque jour, il y a soit une inondation dans le monde, un ouragan, des incendies. Et il y a une prise de conscience absolument générale que la planète brûle, que ça va mal. Donc, voyez les affiches, qu'elles soient de maires sortants, socialistes, de droite. Il y a du vert sur la couverture. D'ailleurs, Madame Hidalgo, ses affiches étaient roses. Et il y a 5 ans, aujourd'hui, elles sont vertes. D'ailleurs, un mauvais vert, je trouve. Mais bon, mais enfin, c'est pas un joli vert. Mais donc, c'est vert, c'est parce que c'est aujourd'hui la seule chose qui fait sens. Mais tout le monde est écologiste aujourd'hui. Tout le monde fait de la surenchère sur ce qu'il va pouvoir proposer, comme sans d'ailleurs chiffrer ses propositions en matière de... Tout le monde fait du vert. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est une prise de conscience
tardive,
salutaire... Et je ne sais pas si elle sera efficace ou pas. Je ne sais pas, je l'espère.
C'est une vraie question, c'est une question importante parce qu'il y aura des élus qui auront été élus avec des programmes, on va dire, verdis ou plus ou moins verts. Mais c'est vrai que pour l'opinion, en général, le fait de pouvoir voir si concrètement des choses seront faites est un point important parce qu'on parle de décrédibilisation de la politique par un manque de résultats ou par des annonces qui sont faites qui ne sont pas suivies de résultats. Si sur la thématique de l'environnement, où il y a une demande, on vient de le dire, extrêmement forte, un certain nombre d'édiles sont élus et derrière ne font rien, eh bien il va y avoir une vraie interrogation de nouveau sur le personnel politique, sur sa capacité à mettre en œuvre sur un sujet qui est aujourd'hui majeur, central, et dans la tête de tout le monde.
Alors, est-ce qu'un vent de dégagisme va souffler sur ces municipales? J'y venais et on va y revenir donc juste après une courte pause très rapide et puis on se retrouve avec les grandes voix et les auditeurs. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Mickaël Darmon, Catherine Ney et Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA. Avec vous, on va évoquer bien entendu cette très bonne nouvelle, dixit Emmanuel Macron. Mais quand même, il y a des chiffres qui sont importants et qu'il faut mentionner. 8,1% à la fin 2019, la baisse du chômage est clairement enclenchée. Emmanuel Macron l'a dit, l'a redit. Muriel Pénicaud, qui était mon invité il y a un instant, pareil, vent d'optimisme. Peut-être même moins de 7% à la fin du quinquennat. Et Catherine Ney, là, il y a une vraie, il y a une vraie raison de se réjouir.
Oui, d'ailleurs, il y a une vraie raison de se réjouir. Et normalement, s'il n'y avait pas cette réforme des retraites qui fait peur à tout le monde, le gouvernement pourrait vraiment aller sur les estrades, parader, triompher, pour dire enfin voilà, triompher. Oui. C'est-à-dire que c'est un résultat extraordinaire, surtout te dire que 7%, ça n'est pas impossible. Alors, ça n'est pas impossible si... c'est vrai que la production industrielle a repris de plus en plus les jeunes créent eux-mêmes leurs emplois. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'épidémie chinoise, ou quand même la Chine, qui est l'usine du monde, qui organise la plus grande opération d'isolement jamais réalisé dans l'histoire de la planète, où tout est à l'arrêt, où les industries automobiles n'ont pas les pièces détachées dont elles ont besoin, on risque même d'avoir pénurie de médicaments. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on se réjouit et on est quand même dans un...
Il y a toujours un mais.
Mais parce qu'il y a incertitude, c'est-à-dire cette épidémie s'arrête quand? Quand est-ce que la Chine reprend?
Ah oui. Parce que c'est quand même 2 millions de Chinois qui viennent nous voir en France chaque année, qui dépensent plus de 4 milliards d'euros. Alors effectivement, si ça dure, ça va commencer à être problématique, Édouard Le Cerf. Ce bon chiffre, ne faut-il pas y voir quand même une deuxième lecture?
Si, moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je vais plaindre les politiques, pour une fois. Je vais les plaindre parce que lorsque vous avez un chômage qui est très haut, ça en fait la principale préoccupation des Français. Et donc, vous avez une forme de pression continue, permanente, nourrie par les sondages, d'ailleurs, qui donne régulièrement ce chiffre-là. La principale préoccupation des Français, c'est le chômage. Le chômage commence à baisser, la préoccupation baisse. Et donc, ça en fait quelque chose où la victoire semble un peu moins belle, un peu moins importante. Donc, c'est un peu terrible pour les hommes politiques d'avoir cette chose en permanence. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, lorsqu'on prend... Il y a l'environnement, on vient d'en parler, mais le pouvoir d'achat est la préoccupation principale. Donc, maintenant, on attend des résultats sur le pouvoir d'achat. Si vous arrivez en disant « Regardez le travail que j'ai fait sur le chômage, c'est formidable », les gens diront « Oui, mais le pouvoir d'achat ».
Bien sûr. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est systématique, Michaël Darmon. C'est comme ça. C'est toujours été comme ça.
En fait, le problème, c'est que là aussi, où c'est un piège, et il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est assez dans l'esprit de l'équipe autour d'Emmanuel Macron et de Macron lui-même. C'est ce qu'ils appellent le syndrome Jospin. Attention à penser que la focalisation uniquement sur un résultat économique
et le
recul du chômage suffirait à changer la donne.
Gommer le reste.
Mais Jospin a été balayé parce qu'il n'a pas perçu l'importance des questions sécuritaires, identitaires et d'organisation politique. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi faire attention à ce que, mais je pense qu'ils en ont conscience au sommet de l'État, d'après ce que je comprends, mais quand même, le fait que le chômage s'améliore ne dit pas forcément que la colère des Français va s'apaiser. Ce sera paradoxal, mais c'est comme ça.
D'accord. La colère des Français, effectivement, c'est compliqué parce que ce qui se télescope encore une fois avec ce chômage, c'est toujours cette réforme des retraites, avec polémique sur polémique, avec la difficulté d'en sortir, avec ces deux élus La République En Marche de la Commission des Finances qui posent 16 questions dont on n'a pas les réponses.
Parce qu'ils expriment des doutes, ils n'ont pas compris.
Bien sûr, sur des milliards d'euros.
Sur des milliards d'euros, mais c'est aussi toute la difficulté pour les députés En Marche que le président a reçus pour la première fois à l'Élysée. C'est que sur le terrain, vous voyez, après les Gilets jaunes, où ils ont vraiment reçu des critiques, enfin, ceux qui soutenaient les Gilets jaunes, comme les commerçants qui perdaient dans leur chiffre d'affaires. Mais là, sur la réforme des retraites, ils sont incapables d'apporter précisions. Alors, on leur pose des questions.
Ah, le gouvernement.
Oui,
le gouvernement.
Oui, mais les députés qui sont interrogés sur le terrain électeurs.
Voilà. Mais en l'occurrence, c'est très important ce qui s'est passé avec cette lettre. Parce qu'en fait, elle émane de deux experts
qui
trépignent à l'idée que Macron ait dit « vous êtes des amateurs ». Et ils disent « nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des experts en commission de finances ». Et ils ont dressé la liste en envoyant le courrier ministre, les 16 questions qui demandent clarification pour pouvoir faire que cette loi puisse être faisable et tout simplement applicable.
Ça veut dire quoi?
Sinon, il y a un processus de réflexion actuellement sur une partie du groupe qui consisterait à minima à s'abstenir et peut-être voter contre. Ah. Et là, on pourrait
là,
déboucher,
c'est le coup de canif.
On pourrait déboucher sur une, éventuellement un processus de scission si jamais ça s'avère. Donc, ça n'est pas anodin ce qui s'est passé. Bien évidemment, le groupe et Édouard Philippe, qui est très en colère depuis hier, essaye d'atténuer, d'étouffer en disant c'est un travail technique des députés. Ouais. Mais en réalité, ils savent qu'il y a un enjeu politique majeur.
Émilie Cariou et Laurent Saint-Martin, pour les citer, ces deux...
Qui est la WIP, Émilie Cariou, qui est une des plus grandes expertes fiscalistes de
Ce qui est intéressant, c'est que le groupe est assez divisé.
Absolument.
Parce qu'il y a ceux qui soutiennent tout à fait le Premier ministre et qui lui savent gré d'avoir eu toujours cette idée fixe et budgétaire, combien ça va coûter. Et ça, c'était une obsession. Vous vous souvenez quand Laurent Berger disait c'est un intrus dans la discussion, l'équilibre budgétaire. Bon, c'est incroyable. Bon. Donc, ils lui disent, voilà, ils posent les vraies questions parce que tout ça, combien ça coûte. Et les autres qui trouvent que, vraiment, l'autre jour, en réunion de groupe, alors que Macron était très attaqué, le Premier ministre n'a pas réagi. Il a soutenu Muriel Pénicaud sur la fameuse histoire, vous savez,
du congé parental.
Mais lorsque, pour la première fois, des députés En Marche ont critiqué directement le président de la République, eh bien, le Premier ministre n'a pas dit « Mais comment, je vous interdis ?» Il n'a pas bougé.
Absolument, mais Gilles Lejean non plus, d'ailleurs.
Oui.
Il y a une faiblesse, on va dire, de l'ingénierie, entre guillemets, du groupe parlementaire qui est reconnu à tous les étages de l'État. La difficulté étant aujourd'hui tout simplement de le remobiliser parce que cette réforme des retraites...
Stanislas Guérini aussi qui a dit c'est très bien, c'est justifié, il faut poser les questions, on pose toutes les questions.
Oui, parce
on
qu'en va fait, conclure, Edouard Le Cerf. Ils n'ont pas d'autre moyen.
Un point simplement sur le sujet, presque en se dégageant du sujet des retraites. Lorsque des experts en viennent à se contredire, c'est toujours très très mauvais parce que naturellement, ça donne l'idée qu'on ne sait plus où est la vérité et quelle que soit la parole, quel que soit l'émetteur de cette parole aujourd'hui, qu'est-ce qui est crédible ? C'est un vrai problème. Au-delà de ce sujet des retraites, quand des experts reconnus finissent par se contredire, sont-ils encore des experts ? En tout cas, aux yeux des Français, ça devient très compliqué.
Ils contredisent la parole de l'exécutif.
Oui, qui est censé être une parole d'expertise.
Absolument.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Mickaël Darmon, Édouard Le Cerf, Catherine Ney. Merci à vous, les grandes voix du
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et la suite du programme, évidemment. Alors, la suite du programme, c'est évidemment Sébastien Krebs qui va nous rejoindre dans un petit instant pour son journal complet. L'Union européenne en alerte face à la menace du coronavirus. Nous serons d'ailleurs en direct de Bruxelles.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir. La suite pour la prochaine heure, Nathalie.
Avec la politique, 19h10, il y a-t-il de l'eau dans le gaz entre le président de la République et les députés de la majorité ? Aurélie Herbemont pose la question à Sacha Houlier, député En Marche de la Vienne, son invité. 19h30. Du Bowie, carrément.
Ouais, Life on Mars, on s'envole, on décolle. 2020 sera une année exceptionnelle dans l'exploration de la planète rouge. À la recherche de la vie sur Mars, c'est tout sauf de la science-fiction. Décollage avec Alain Sirou et l'ancien spationaute Jean-François Clairvoy. Ils seront à mes côtés à 19h30. Et puis à 19h45, les victoires de la musique, c'est demain. Angèle Châtelier nous donne toutes les coulisses.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
La plupart des fabricants de ces équipements de protection individuelle, comme les masques, les gants, sont situés en Chine et sont eux-mêmes en rupture de stock.
Les Européens font front commun contre le coronavirus et annoncent des achats groupés de matériel de protection.
Le chômage à son plus bas niveau depuis 11 ans. On n'a jamais autant embauché en CDI, se réjouit les ministres du Travail.
Dans ce journal aussi, l'environnement, le combat du siècle décrété par Emmanuel Macron sur le Mont Blanc. Et puis le mauvais départ des Français aux mondiaux de biathlon.
Et puis Anissa, du côté du temps.
Demain, c'est une bonne nouvelle, on va bien terminer la semaine puisque le soleil fait son retour, timidement, mais il fait son retour. Et attention, ce soir, toujours deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, placés en vigilance orange, crue inondation.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est le troisième patient qui sort guéri de l'hôpital, un Bordelais de 48 ans d'origine chinoise. Il l'annonce lui-même ce soir. Le coronavirus Covid-19 n'a provoqué aucun décès à ce stade, ni en France ni en Europe. Mais les ministres de l'Union se sont tout de même réunis aujourd'hui à Bruxelles pour coordonner leur action. Ce qui les préoccupe, Isabelle Horry, ce sont les pénuries potentielles de matériel de protection.
Oui, car près de la moitié de ces protections sont justement fabriquées en Chine. L'un des objectifs de la réunion, c'était donc de faire le point sur les stocks. Agnès Buzyn a résumé le problème devant les 26 autres ministres de la Santé.
La situation en Chine a des impacts directs, notamment sur la disponibilité des équipements de protection individuelle, comme les masques, les gants, les combinaisons de protection qui sont nécessaires pour assurer une protection efficace de nos professionnels de santé en contact avec les malades. La plupart des fabricants de ces équipements sont situés en Chine et sont eux-mêmes en rupture de stock.
La Commission européenne va jouer les centrales d'achat, elle va lancer un appel d'offres groupé. L'idée, c'est de convaincre des entreprises européennes d'augmenter leur production en leur assurant un débouché certain. Et puis, les 27 s'inquiètent aussi d'un deuxième risque de pénurie. Pour les médicaments, cette fois, plus de 80% des substances actives proviennent d'Asie, selon l'Académie française de pharmacie. Sous l'impulsion de la France, les Européens vont tenter d'identifier plus précisément ce qui pourrait manquer.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et les experts de l'OMS se veulent rassurants. La brutale augmentation du bilan chinois ne reflète pas une aggravation de l'épidémie.
Oui, parce que Pékin avait annoncé 15 000 nouvelles contaminations ces 24 dernières heures. Venons-en au chômage qui est donc à son plus bas niveau depuis 2008, 8,1% à la fin de l'année 2019. Embellie constatée sur plusieurs fronts, les plus de 50 ans, les femmes, les chômeurs de longue durée. La France crée donc des emplois et en CDI se réjouit le gouvernement qui dit pouvoir tenir sa promesse ramener le chômage à 7% à la fin du quinquennat.
Et exemple, ce soir, une illustration dans une entreprise qui embauche dans le secteur des jeux vidéo même. Reportage dans le Nord de Maximilien Carlier.
Arrivé récemment, Thomas a déjà pris ses marques. Plutôt bien installé, sur son bureau, deux écrans d'ordinateur, un clavier, des casques de réalité virtuelle. Il est game designer, il a 22 ans et il nous explique son parcours.
Donc après 3 ans d'études, j'avais trouvé un stage et puis après le stage, je ne retrouvais pas de travail. Donc je suis resté... 2 mois et demi à peu près au chômage avant de trouver la verticale grâce à une annonce sur internet. Et donc du coup après une période de CDD, là je vais passer en CDI, donc on peut dire que ça se passe bien, oui.
L'entreprise emploie une dizaine de personnes à Tourcoing et compte embaucher encore, comme l'explique le fondateur de Vertical, Johan Sarels.
En ce moment, le secteur du jeu vidéo est quand même un secteur qui recrute particulièrement. Il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits dans le secteur par des producteurs de contenu et aussi par les plateformes de distribution des jeux. Les conditions sont bonnes pour recruter.
Et d'ici la fin de l'année, ce studio de création de jeux vidéo devrait embaucher 3 à 5 personnes supplémentaires, principalement des développeurs et des graphistes. Tourcoing, Maximilien Carlier, Europe 1.
Nouvelle session de négociation aujourd'hui à Matignon sur la réforme des retraites et toujours pas d'avancée sur la question de la pénibilité. Point crucial, estime la CFDT qui dénonce le blocage du patronat.
Et c'est un enfant tout à l'heure qui a demandé à Emmanuel Macron comment arrêter les grèves.
Si ça ne tenait qu'à moi, je te les arrêterais. Voilà ce qu'a répondu le président avant d'ajouter qu'il était optimiste sur le fait que tout le monde se réconcilie. Scène captée en marge de son déplacement en Haute-Savoie dans le massif du Mont-Blanc. Ce matin, Adrien Beck, volontarisme affiché sur l'environnement.
Oui, et quoi de mieux pour cela que de laisser parler l'image Emmanuel Macron sur la mer de glace, symbole du réchauffement climatique dans les Alpes. Une arrivée matinale, puis une descente le long des 500 marches qui conduisent à ce glacier en recul et un échange avec son guide du jour, le glaciologue Luc Moreau.
Vous, votre travail, forcément, il n'est pas sur le temps court. Malheureusement, vous ne le verrez pas pendant votre mandat. C'est des décisions que vous allez prendre.
Vous avez raison. Et on voit d'ailleurs à quel point les non-décisions d'il y a longtemps conduisent à ça.
Après l'image, le discours, Emmanuel Macron est redescendu dans la vallée pour s'exprimer devant l'Office français pour la biodiversité. Alors pas d'annonce majeure, mais plutôt une manière pour lui de souligner ses actions pour l'environnement dont il fait un combat.
Sans doute avons-nous trop tardé et avons-nous encore quelques-uns à convaincre. Le combat, qui est un combat de temps long, peut aussi avoir des résultats concrets, tangibles, visibles. Ce sera le combat du siècle.
Un combat du siècle et une façon d'amorcer le virage écolo de son quinquennat avant des élections municipales prévues non pas dans un siècle, mais le mois prochain.
Adrien Beck, envoyé spécial d'Europe 1 en Haute-Savoie.
L'information nous est parvenue il y a quelques secondes. Tariq Ramadan, à nouveau mis en examen pour viol sur 2 autres femmes.
Oui, 2 nouvelles victimes présumées qui avaient été interrogées comme témoins. Elles ont été identifiées l'an dernier sur des photos retrouvées dans l'ordinateur de l'islamologue suisse. Il conteste toutes ces accusations. Tariq Ramadan est déjà mis en examen pour 2 autres viols depuis février 2018. Le 5 mai, décrété jour de deuil pour le football français, 27 ans après le drame du stade de Furiani, les députés ont approuvé aujourd'hui à la quasi-unanimité l'idée de ne plus jamais organiser de match de foot professionnel en ce jour anniversaire. Le Sénat doit encore valider la décision.
Les sports, justement, est le début aujourd'hui des mondiaux de biathlon. Ça se passe en Italie. Ça a très mal démarré pour les Français. Hein,
on va rejoindre notre envoyé spécial, Axel May, à Anterselva, près de la frontière autrichienne. Axel, les Français faisaient partie des favoris du relais mixte. Ils finissent 7e. Il va falloir rebondir demain lors des courses individuelles.
Eh bien, écoutez d'abord l'ambiance qu'il y avait tout à l'heure au moment de l'arrivée, quand la fusée norvégienne Johannes Bø a conclu en vainqueur ce relais mixte devant l'Italie, soutenue par son public, et devant les Tchèques, tout contents de récolter le bronze. Une ambiance que les Français, 7e, plombés par un premier relais raté de Julia Simon, n'avaient pas envie d'apprécier, ce que résume Martin Fourcade.
Trois grosses équipes favorites, la France, la Norvège et l'Italie. On est la seule des trois à ne pas le faire aujourd'hui. On ne tient pas notre rang et c'est triste de démarrer les championnats comme ça. Donc oui, forcément un peu frustré, un peu déçu.
On retiendra quand même que le dernier relayeur français, Quentin Fillon-Maillet, a réalisé un tir parfait, ainsi que le meilleur chrono de tous les concurrents sur les skis. En tout cas, il faudra se remobiliser dès demain pour le début des épreuves individuelles, en l'occurrence le sprint féminin. Tourner la page, plus facile à dire qu'à faire, reconnaît Julia Simon.
Bah oublier, là ça va être compliqué, étant donné que c'est un relais, c'est des courses qui tiennent à cœur, c'est des courses qui pénalisent pas que moi, et ça va être pas facile d'oublier, mais oui, il va falloir tourner la page.
Clairement, demain, les Françaises, Julia Simon, Justine Brezaz, Anaïs Bescon et Célia Aymonier font figure d'outsider, et pour ouvrir le compteur de médailles tricolores, il faudra sans doute attendre le sprint messieurs samedi.
Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Anterselva aux Mondiaux de biathlon. Le foot, ce soir, dernier quart de finale de la Coupe de France, Épinal-Saint-Étienne. Coup d'envoi 21h, ça se joue à Nancy.
Et merci beaucoup Sébastien Krebs. À tout à l'heure, 19h30. Anissa Le Soleil qui revient doucement, mais sûrement.
Oui, doucement, doucement. Alors sûrement, je ne sais pas.
Ça,
ne vous emballez pas Nathalie, amis auditeurs, ne vous emballez pas parce qu'il ne va pas rester très longtemps dans le ciel ce soleil. Il revient doucement parce que demain matin, le ciel est encore couvert sur l'ensemble du pays. Un ciel qui pourra apporter même quelques petites gouttes sur le nord-est, le temps que cette perturbation s'en aille. Sur le Jura et les Alpes, on attend même demain quelques flocons à partir de 1000 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, c'est là que ça devient sympa. Le ciel se dégage pour laisser place à de belles éclaircies. De l'Occitanie jusqu'aux Alpes et le long du littoral méditerranéen, là, le temps est vraiment très agréable avec un ciel bien dégagé. Au nord de la région lyonnaise, si vous vous trouvez dans l'une de ces régions, bien le temps reste sec avec de belles apparitions du soleil. Et c'est au nord-ouest, sur la pointe bretonne, que demain, en fin de journée, vous pourrez avoir quelques petites gouttes. Les températures, 2 à 6 degrés en moyenne demain matin, 7 à 11 au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée. Il fait doux demain matin. Dans l'après-midi, nous aurons 9 à 14 sur l'ensemble du pays et 15 à 20 degrés au bord de la Grande Bleue.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Avec l'interview politique, bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir,
Sacha Houlier, député LREM de la Vienne. On va parler baisse du chômage et réforme des retraites, qui est tout sauf un long fleuve tranquille.
Une interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et place à l'interview politique, Nathalie Lévy.
Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, dans ce studio, Sacha Houlier, député de La République En Marche de la Vienne.
Bonsoir Sacha Houlier.
Bonsoir.
8,1%, le chômage atteint son plus bas niveau depuis 2008. C'est une très bonne nouvelle, mais pas de triomphalisme, comme le dit Emmanuel Macron.
D'abord, pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que la campagne de 2017, elle s'est avant tout jouée dans la lutte contre le chômage de masse. Ce chômage de masse, il était à 10%. Lorsque nous avons été élus.
François Hollande n'avait pas réussi à inverser la fameuse courbe du chômage.
Peut-être, mais je veux juste te donner des chiffres qui sont ceux de 2019. C'est 4 200 000 embauches en CDI. En CDI, donc ce ne sont pas des emplois précaires. 1 million de chômeurs formés, 500 000 apprentis formés. Et on pourrait multiplier les chiffres. Mais pourquoi c'est si important pour nous? Parce que dans le projet que nous portons, dans les valeurs qui sont les nôtres, le travail occupe une place majeure. L'émancipation par le travail, l'utilité sociale, la reconnaissance d'autrui, la façon dont finalement on peut se réaliser au travers l'accomplissement d'une tâche qui nous donne l'envie de se lever le matin ou qui nous donne une structuration de nos journées. Et ça, c'est important parce que c'est une valeur qui a été longtemps revendiquée par la gauche, qui a été préemptée en 2007 par la droite et qui finalement est le socle fondamental idéologique d'En Marche. C'était le pilier 2 de notre programme présidentiel. Et donc, c'est évidemment une bonne nouvelle que de constater que sur ce sujet, nous parvenons à nos fins, à nos buts, sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Il y a encore beaucoup à faire.
Puisque nous visons, d'ici la fin du quinquennat, un taux de chômage de 7 points.
C'est un objectif atteignable, alors qu'on le voit, la croissance montre des signes de faiblesse.
Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que malgré cette croissance qui finalement est bonne, mais n'est pas si bonne qu'on pourrait l'attendre, les emplois continuent d'être créés. Ce qui veut dire que les entreprises embauchent. Peut-être parce que les baisses de cotisations sur les bas salaires qui avaient été entreprises sous le précédent quinquennat mais qui ont été pérennisées par nous, eh bien, produisent leurs effets sur l'emploi.
C'est aussi un peu grâce à François Hollande alors.
Mais il faut le reconnaître, le CICE, il est plus ancien que nous, il nous précède. Il faut admettre aussi que la réorganisation du monde du travail, elle a commencé en 2015, elle s'est poursuivie par les ordonnances que nous avons adoptées. Et puis, il faut admettre que pour la formation professionnelle, c'est 2018, comme pour le focus majeur sur l'apprentissage, et que si on constate aujourd'hui qu'il y a près de 10% de plus d'apprentis en France qui se lancent dans cette tâche, c'est parce que nous avons redonné les lettres de noblesse à cette voie qui, aujourd'hui, est aux yeux de tous une voie d'excellence.
Alors, il y a aussi quand même une moindre augmentation de la population active dont vous également profitez. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle, ces chiffres du jour. Il y a quand même un gros bémol. Si on se penche sur le chômage des 15-24 ans, les moins de 24 ans, ça repart à la hausse. Le chômage est à 20%. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette situation que j'imagine vous ne trouvez pas acceptable ?
Elle est inacceptable et j'ai fait partie de ceux qui, dès 2013, ont voulu expérimenter un dispositif qui s'appelle la garantie jeune. Un dispositif qui est porté par les missions locales qui dit « Lorsque vous n'avez rien, ni études, ni formation professionnelle, ni emploi, on vous récupère pendant un an, on vous remet le pied à l'étrier et on vous ramène vers quelque chose qui soit l'emploi. » Il y a l'apprentissage, ça a été dit, il y a les travaux qui doivent pouvoir être conduits. Et vous savez qu'on vient d'annoncer, notamment au terme de la réforme de l'assurance chômage, 1000 emplois nouveaux auprès de Pôle emploi. Ce sont ces accompagnateurs qui doivent permettre de donner des nouvelles solutions, de faire des bilans de compétences, vous accompagner tous les jeunes qui sont les premiers frappés par le chômage, tout comme le sont ceux qui sont le plus proches de l'âge de la retraite.
Même si ça s'améliore chez les plus de 50 ans.
Et alors, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais puisque l'on parlait des jeunes, eh bien, c'est aux 1000 postes nouveaux et à tous ceux qui sont aujourd'hui à la tâche à Pôle emploi et que je veux remercier naturellement ce soir, eh bien de pouvoir nous accompagner dans ces nouvelles solutions.
Alors parlons maintenant des retraites, Sacha Houllier. Il y avait une nouvelle réunion à Matignon entre le Premier ministre et les partenaires sociaux, réunion qui était principalement consacrée à la pénibilité. À la sortie, les syndicats dénoncent des blocages du côté du patronat sur ce sujet. Est-ce que vous restez malgré tout optimiste ?
D'abord, je suis satisfait qu'on puisse dire qu'il y a un blocage et qu'on identifie qui en est l'auteur.
Parce que le patronat, donc.
Non, mais c'est pas pour pointer. J'ai eu cette discussion avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, comme j'ai eu cette discussion
le
avec
patron
Laurent,
du MEDEF.
Avec Laurent Berger. On a de des choses à avancer sur la pénibilité. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on en est sur cette réforme des retraites. Il y a les principes qui demeurent, qui sont intangibles, qui sont ceux de notre système. Les actifs cotisent pour les pensionnés. Quand on acquiert suffisamment de droits, on part à la retraite. Il y a ce qui change, au moins deux choses. Donc, dans ce qui change.
Peut-être plus même.
Non, mais au moins deux choses dans les principes pour que tout le monde comprenne. On harmonise. Le rapport de Levoix, c'était 10 euros de cotisation, 1,55 €. Et malgré toutes les spécificités, on reste dans le même régime parce que ce point, il peut valoir 56, 57, 58 si vous êtes un pompier, si vous êtes un policier, si vous êtes un ouvrier du BTP, parce qu'il y a la pénibilité.
Il y a la pénibilité.
Et puis, justement, il y a les nouveaux droits. Ça, c'est ce qui change. Pénibilité, bonification pour les enfants, pension de réversion qui sont garanties à 70%, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus solide que ce qu'on avait jusqu'à présent. Ce qui veut dire une chose, c'est que tous ces nouveaux droits, un, il faut les établir. Il faut qu'il soit palpable, il faut qu'il soit concret. C'est l'objet des négociations. Il faut qu'il soit financé.
Il faut qu'il soit financé. Vous avez, par exemple, deux de vos collègues qui sont membres de la commission des finances qui ont écrit au Premier ministre pour lui faire part de leurs interrogations quant à l'impact budgétaire de cette réforme, quant aux nouveaux droits et quant aussi aux concessions qui ont été faites. Je pense à la baisse des cotisations, la baisse de la CSG pour les avocats, les augmentations de salaire pour les enseignants. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ?
Bah, je ne suis pas démesurément inquiet, mais qu'on nous dise où est-ce qu'on va prendre l'argent pour financer, ça me paraît assez utile.
Vous reconnaissez que c'est assez flou pour l'instant.
Mais parce qu'il y a une conférence de financement. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont dit l'âge pivot dès 2022, l'âge pivot entre 2022 et 2027, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Et donc, c'est pour ça que la CFDT, l'UNSA, la CFTC ont proposé la conférence de financement qu'on a acceptée. C'est pour ça qu'on a mis les acteurs de la démocratie sociale au cœur de ce phénomène pour leur dire on va créer des nouveaux droits. Il faut les financer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des propositions, notamment avec Mathieu Orphelin, sur les cotisations déplafonnées.
Qui a quitté En Marche ?
Oui, mais parce que...
Mais avec qui vous continuez à travailler ? Non, c'est juste pour que nos auditeurs...
Je pense qu'on peut travailler avec tout le monde. Et je pense que c'est justement ce qui nous a permis d'être élus aujourd'hui, c'est de travailler avec tout le monde pour trouver des solutions et pour trouver des solutions tangibles, crédibles. Là, c'était une idée de faire contribuer chacun selon ses revenus dans la cotisation de solidarité. Grosso modo, la cotisation qui est celle de solidarité, elle diffère et donc elle augmente en fonction des revenus. Plus vous avez des revenus importants, plus la cotisation de solidarité serait importante.
Est-ce que vous croyez, vous êtes persuadé que vous irez au bout de cette réforme des retraites ? Parce que c'est quand même semé d'embûches. Il y a une nouvelle journée annoncé comme noir dans les transports lundi. Il y a l'obstruction parlementaire qui risque de se poursuivre. Un calendrier qui, malgré tout, est très contraint. Des députés qui, parfois, dans la majorité, voilà, on pose des questions au Premier ministre. Vous pensez vraiment que vous allez arriver au bout de cette réforme qui est quand même semée d'embûches depuis le début ?
Moi, j'ai pas de croyance, j'ai que des souhaits. Et sur cette question, ma boussole, c'est ce qu'avait promis Michel Rocard dans son livre blanc au milieu des années 90. Je pense que le système universel par points qui permet de réparer les carrières heurtées, qui permet finalement de profiter principalement aux femmes qui ont eu ces carrières décousues pendant très longtemps, qui permet de réparer la pénibilité, les corps brisés, qui permet de valoriser toutes les personnes qui ont tant donné à la société, eh bien, elle est absolument nécessaire. Et donc, plus que croire, je souhaite qu'on y parvienne.
Et dans les délais, un tout dernier mot, très brièvement, car elle a manqué de temps. Aujourd'hui, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la fin des matchs de foot professionnels le 5 mai pour rendre hommage aux victimes du drame de Furiani. Est-ce que c'était un symbole très important ?
J'ai signé cette proposition, je l'ai soutenue, je l'ai votée. Elle est un important signal pour les victimes de la catastrophe, comme pour tous les supporters de football qui le demandaient.
Eh bien, merci beaucoup, Sacha Houlier, d'avoir été mon invité ce soir.
Merci. Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit dans un instant, Nathalie Lévy. Restez avec nous à 19h30, on s'envole sur la planète Mars, ouais, à la recherche d'une vie extraterrestre. Rien que ça, c'est pas de la science-fiction, hein. Ça va se passer là en 2020, une expédition inédite. Notre consultant ciel et espace, Alain Sirou, nous explique tout cela. On sera également avec quelqu'un qui connaît très bien l'espace, le spationaute Jean-François Clairvoy.
Et vous pouvez leur poser toutes vos questions, vous aussi, si vous êtes intrigué par cette planète Mars. Ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, tous les jours avant 19h30, Europe 1 vous propose d'écouter le monde changer, de prendre un temps d'avance avec ce qui va se passer demain, Nathalie.
Alors demain, on va s'installer à Marseille, direction Carry-le-Rouet. C'est tout près, hein, de la cité phocéenne. Depuis 14 jours, 181 rapatriés français de Wuhan vivent leurs dernières heures de confinement dans un centre de vacances. Bonsoir Nathalie Chevance.
Bonsoir à tous.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 sur place. Alors, en fait, ils font leur paquetage, leur valise ?
Oui, car les premiers bus vont quitter la Côte Bleue demain matin, terminer le masque obligatoire, les prises de température et la quarantaine. Ces rapatriés, dont une cinquantaine d'enfants, vont retrouver leur famille en France. Certains vont prendre l'avion, d'autres le train pour rentrer chez eux. Les billets ont été réservés. Les navettes vont circuler toute la journée pour les conduire jusqu'à l'aéroport ou dans les gares. Des rapatriés soulagés, bien sûr, nous explique la Croix-Rouge, car aucun n'a été contaminé. Leur séjour ici, dans ce centre de vacances assez idyllique, il faut le dire, s'est déroulé au mieux. Et à l'extérieur, dans la ville, eh bien, la psychose du début est finalement assez vite retombée, comme l'admet le maire Jean Montagnac.
J'ai été inquiet sur le moment, quoi. Quand ils vont partir, ils seront en pleine forme. En tout cas, je crois que j'ai rempli la mission d'un maire qui a le devoir d'accueillir des Français qui étaient beaucoup plus stressés et inquiets. Et donc, ben, finalement, il y a eu plus de publicité positive pour la ville que de publicité négative. Un renversement de situation que je ne pensais pas moi-même, parce que je me suis dit, chaque fois qu'on a parlé de la Chine, je me suis dit, ça va être négatif, mais pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura des retombées touristiques plus importantes que d'habitude.
Voilà, Carry-le-Rouet qui en a profité pour se faire un petit coup de pub en pleine période de la fête de l'Oursin. Et dimanche, une quarantaine d'autres rapatriés pourront à leur tour quitter les lieux sans savoir encore très précisément ce qu'ils vont faire une fois dehors, car beaucoup étaient installés en Chine depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Nathalie Chevance depuis Marseille pour Europe 1. Merci à vous. Le coronavirus, évidemment, on le sait qu'il n'a pas de frontières. On le découvre un peu plus chaque jour. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Alors demain dans Le Monde, c'est cet aveu terrible des autorités communistes chinoises. Le nombre de personnes infectées est bien plus élevé que ce qu'elles avaient annoncé. Pékin l'a officiellement reconnu aujourd'hui. 14 840 nouveaux cas de contamination, 242 nouveaux morts dans le Hubei.
Oui, et puis à l'échelle du pays, c'est 1 357 décès et 20 000 nouveaux malades pour un total de 60 000 personnes dont l'infection a été détectée. C'est un tiers de plus que ce qui avait été annoncé jusqu'à présent. Les autorités chinoises ont donc menti depuis le début du mois de janvier. Elles ont gravement sous-estimé l'ampleur de l'épidémie. Alors, elles plaident la bonne foi. Oui. Selon les dirigeants communistes de Pékin, ce sont les procédures de diagnostic qui auraient été défaillantes. Le manque de tests de détection à l'acide nucléique dans les hôpitaux et puis la faible fiabilité de ce test qui aurait faussé les statistiques. Et puis, c'est la décision prise d'utiliser désormais les radios des poumons pour diagnostiquer l'infection qui aurait fait mécaniquement monter le nombre de cas recensés.
Alors que croire ? Que croire ? Elle en est où cette épidémie ?
Alors c'est bien le problème. La preuve vient d'être faite qu'il est aléatoire de s'appuyer sur les chiffres fournis par la Chine parce que dans les faits, les modes de calcul comme les procédures médicales, ne sont pas décidées par les scientifiques, mais par le Parti communiste chinois. Et plus précisément par le comité permanent de son bureau politique, qui s'est réuni hier et qui a fixé les nouvelles règles. Alors évidemment, il prend en compte les avis médicaux, mais fondamentalement, ses choix sont politiques et surtout, ils ne sont pas discutables. Exemple, c'est le maire de Shanghai, proche allié du président Xi Jinping, qui vient d'être nommé secrétaire du parti dans le Hubei, l'épicentre de la crise, et qui cumule ce poste avec la fonction de directeur régional de la santé. C'est dire si l'affaire est suivie de près par Pékin, car l'opinion publique chinoise commence aussi un peu à s'émouvoir.
Et pour cause.
Voilà. Maintenant, est-ce que ça va être efficace? Les deux dirigeants qu'il remplace et qui ont été limogés, ils avaient été nommés avant lui dans les mêmes conditions, avec les résultats qu'on connaît. Donc si le communisme avait le pouvoir de guérir les écrouelles, ça se saurait.
Ouais, évidemment. Merci beaucoup Didier François. Et on va être très très complet ce soir sur le sujet, parce qu'avec vous Théophile Cossa, on va continuer d'en parler, d'autant que les autorités elles viennent de lancer une nouvelle application pour détecter les personnes infectées.
Oui Nathalie, ça s'appelle Close Contact Detector, une application mobile du ministère de la Santé chinois qui marche un peu comme un GPS et qui
permet... C'est pas anecdotique donc.
Non, pas du tout. Et qui permet en théorie à son utilisateur d'éviter de croiser une personne infectée. Une appli qui permet en fait surtout à Pékin d'identifier les citoyens susceptibles d'être infectés en observant s'ils ont été en contact ou s'ils ont même juste croisé dans la rue une personne malade. Oui, car en se connectant à l'application, l'utilisateur permet aux autorités d'accéder directement à tout son historique de déplacement. En croisant ensuite les données, les autorités sont capables d'identifier les cas suspects. Et puis, si l'appli estime que vous avez été trop proche d'une personne infectée, elle vous invite à rester confiné chez vous.
Ça bip, non, au-dessus de la tête de la personne, au cas où quand même. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est Big Brother.
Oui, et ce n'est pas la première technologie que déploie Pékin pour tenter de contrôler l'épidémie. Drones, reconnaissance faciale pour identifier ceux qui ne portent pas de masque ou qui ne respectent pas le couvre-feu. Et même de nouvelles caméras thermiques capables d'identifier en temps réel les citoyens atteints de fièvre. Le coronavirus lève finalement le voile sur l'arsenal technologique complètement dingue qu'emploie la Chine pour surveiller ses citoyens. Portrait d'un régime autoritaire en 2020.
Voilà, exactement. Non, mais je vous dis, ça devrait s'assonner au-dessus des têtes des gens. Comme c'est ça, incroyable. Au moins, on est sûr qu'on les a localisés. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous pour toutes ces explications autour du coronavirus.
Europe 1.
Dans un instant sur Europe 1, Nathalie.
C'est le rappel des titres avec Sébastien Krebs. Et puis juste après 19h30, 2001, l'Odyssée de l'espace, prêt à décoller. Là, on vous emmène sur Mars à la recherche de la vie. Ce n'est pas de la science-fiction, ça va se passer cette année. Alain Sirou et le spationaute Jean-François Clairvoy nous racontent. Ils sont mes invités dans un instant.
Et si vous avez vous aussi des questions concernant la conquête de Mars, n'hésitez pas, deux spécialistes sont là pour vous répondre au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Un troisième patient atteint par le coronavirus est sorti de l'hôpital. Un Bordelais d'origine chinoise, il avait été le premier cas détecté en France. Il annonce être totalement guéri. Tariq Ramadan mis en examen pour deux nouvelles affaires de viol. Les deux victimes présumées ont été identifiées sur des photos retrouvées dans l'ordinateur de l'islamologue. Le chômage au plus bas niveau, à son plus bas niveau depuis 11 ans. Pas de triomphalisme, réagit ce soir Emmanuel Macron. En Irak, une base abritant des soldats américains a été visée par une attaque à la roquette. Pas de victime indiquée à ce stade. Puis le football, il reste une place en demi-finale de la Coupe de France qui rejoindra Paris, Rennes et Lyon. Ce sera soit Saint-Étienne, soit Épinal, club de National 2. Le match se joue à 21h à Nancy.
Merci beaucoup Sébastien. Demain, 18h, vous serez là dans ce studio à mes côtés pour de nouvelles infos. Anissa, une journée agréable pour finir la semaine.
Exactement, un vendredi plutôt sympathique, effectivement, demain, avec encore demain matin sur la façade est, quelques petites gouttes, quelques petites averses. Ce sont les restes de cette perturbation qui, aujourd'hui, a traversé tout le pays. Sur le Jura et les Alpes, demain, encore des flocons. Il neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Du nord à l'Occitanie, le ciel est couvert demain matin, mais au fil des heures, ce ciel va se dégager et c'est une journée plutôt ensoleillée dans l'après-midi. Attention sur la pointe bretonne, sur le Finistère, vous aurez peut-être quelques gouttes en fin de journée. Les températures, 2 degrés à Valence et Avignon, 3 pour Lille, 5 à Lyon et 7 degrés demain matin à Paris.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et on vous propose de voyager ce soir. Et pas n'importe où, direction Mars avec deux spécialistes. Ce sont vos invités, Nathalie Lévy. Vous recevez notre consultant ciel et espace Alain Sirou qui nous explique tout. Et puis, Jean-François Clairvoy, le spationaute.
Eh oui.
Mmh.
Merci Alain Sirou, on reconnaît bien sûr David Bowie. Merci beaucoup Alain Sirou d'être avec nous ce soir. Merci à Jean-François Clairvoy d'être en ligne avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Jean-François Clairvoy, vous êtes bien entendu le spationaute français qui a participé à 3 vols spatiaux entre 1994 et 1999 à bord de la navette américaine Atlantis. Hein. Vous avez vécu 28 jours dans l'espace. Je vais venir vers vous dans une petite seconde. Je voudrais faire une espèce de point d'étape ou même une espèce de d'état des lieux avec vous. D'abord Alain Sirou pour démarrer. Parce que, voilà, on a su cette semaine, que l'agence spatiale américaine lançait un appel à candidature pour cette prochaine promotion d'astronautes qui iront sur Mars. Cap sur Mars, là, dans les prochains mois.
Alors, à mon avis, ils vont d'abord viser la Lune. Hein, parce que c'est quand même beaucoup plus simple.
D'abord, parce qu'effectivement,
il y a les deux. Alors, on peut dire aujourd'hui que ceux qui sont recrutés, en tout cas aux États-Unis pour les années qui viennent, viseront la Lune. C'est un programme qui s'appelle Artemis et que le président américain a annoncé comme étant le premier débarquement d'une femme, d'abord, sur la Lune en 2024-2025. Ça,
c'est vrai qu'il est temps.
L'ambition politique, si je puis dire. La réalité, c'est sans doute beaucoup plus complexe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les gens qui sont sélectionnés, ceux-là, iront peut-être sur la Lune. Mars, c'est une destination bien plus lointaine.
Bien plus lointaine et bien plus compliquée. Alors, Jean-François Clairvoy, ne parlons pas nécessairement de Mars, mais vous, l'espace, parce que vous l'avez fréquenté, 28 jours quand même dans l'espace. L'espace, ça vous a modifié à jamais?
L'espace déjà modifie le corps quand on est en orbite, on devient extraterrestre, on a des changements du système osseux, musculaire, urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, enfin. Mais les médecins nous disent que c'est normal. Mais c'est vrai que quand on revient, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la vue de la Terre. Vous demandez à un astronaute qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre expérience du vol spatial, tous vous diront cette émotion à regarder notre planète parce qu'elle est finie, elle est magnifique, elle est isolée sur un fond noir vide du cosmos et on en tombe amoureux et on garde ce souvenir très fort à vie.
Ah oui, forcément. Alors ça doit évidemment toujours vous passionner, vous regardez ce qui se fait de très très près. Je parlais avec Alain Sirou donc de la Lune et puis de Mars. Évidemment Mars ça semble plus compliqué, mais dites-moi si je me trompe, à l'été 2020 la planète rouge sera quand même au plus près de notre Terre, 56 millions de kilomètres. La sonde mettra ensuite 9 mois avant d'atteindre Mars. Alain Sirou, il y a cette période, cette fenêtre de tir si j'ose dire.
En fait il y a une période de tir favorable les 25 mois à peu près. Et cet été, c'est particulièrement favorable. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va profiter, quand je dis « on », c'est les agences spatiales, de ce rapprochement pour envoyer cet été 4 missions. 4 missions, si tout va bien. La première, elle est première mission des Émirats Arabes Unis, qui ont pour objectif d'envoyer un satellite autour de Mars en orbite géostationnaire, juste pour, je dirais, fêter le 50e anniversaire de leur création. Vous voyez bien? On n'est pas sur un programme scientifique. Ensuite, on a une mission qui sera sans doute la première mission aussi, chinoise.
Chinoise, absolument.
Et cette mission chinoise elle consiste à envoyer un appareil en orbite, de poser un atterrisseur et de faire rouler un petit robot à la surface.
C'est le petit robot ExoMars, hein, c'est ça?
C'est la Chine. Ils se sont inspirés de ce qu'ils ont envoyé sur la Lune, la mission Chang'e. Et puis ensuite, on a, alors là, c'est du lourd, c'est les États-Unis, c'est le programme Mars 2020. Ouais. Donc, qui a pour objectif, alors celui-ci, les États-Unis, je vous rappelle, sont les seuls à avoir réussi à poser 3 atterrisseurs sur Mars et des rovers qui circulent toujours à la surface de Mars. Eh bien, l'idée là, c'est de grimper sur un barreau supplémentaire d'une échelle qui est, d'abord on cherchait l'eau, ensuite on cherchait à savoir si la planète était habitable dans le passé.
Bien sûr, c'est toute la question.
Et là, maintenant, on va chercher en tout cas des traces de vie. Et puis enfin, 4e mission, vous vous rendez compte.
C'est la mission l'année
européenne, russe, si elle part, parce qu'il y a quelques petits problèmes techniques à régler avant ça, eh bien, elle a pour objectif d'envoyer un orbiteur, encore une fois, et de poser à la surface de Mars avec un atterrisseur russe un rover européen dont la mission sera de faire un forage à 2 mètres de profondeur. Vous imaginez
Non, mais c'est vraiment 2020, c'est l'année de la ruée vers Mars, hein, on l'a compris. Jean-François Clairvoy, que savons-nous aujourd'hui sur Mars, notamment sur la question qui nous passionne, qui nous fascine tous, sur la question d'une vie possible?
En tout cas, toutes les recherches qu'on fait régulièrement, en tout cas, aucune trouvaille sur Mars nous convainc qu'il n'y a pas de vie possible. Donc, plus on étudie Mars et plus on pense que la vie a pu être possible ou est peut-être possible dans le sous-sol. Alors, c'est vrai que tes premiers robots partent là en éclaireur. Ouais. Mais un jour, c'est vrai que l'humain sur place sera très performant par rapport au robot qui ne fait que ce pour quoi on l'a programmé, pour rechercher des traces de vie. Et là où le rover européen va creuser à 2 mètres, c'est là où on pense qu'il y a de l'eau, parce que d'autres satellites et rovers auront détecté la zone comme idéale. Mais, mais c'est la très grande découverte. Moi, j'espère être là quand des humains seront sur Mars et peut-être contribueront à un élément de réponse à la question « Est-ce que la vie a existé ailleurs ?»
Ouais. Bah oui, bien sûr. On a Lounis qui nous appelle de Lille pour vous interroger, Alain Siroux, Jean-François Clairvoy. Bonsoir, Lounis.
Bonsoir, madame.
Je vous en prie, bonsoir. Vous pouvez poser votre question.
Monsieur Alain Siroux, je voudrais vous poser une question relative à la vie sur Mars. Ouais.
Ah bah voilà.
Si c'est vrai qu'il y a bel et bien eu des formes de vie microbactérienne sur Mars, supposant qu'on en trouverait, par exemple, une intervention humaine pourrait-elle être envisageable, par exemple, pour créer des conditions de manière artificielle pour recréer une forme de vie sur la planète Mars.
Oui, alors vous êtes là dans la science-fiction. Et dans la science-fiction, il y a science et fiction. Alors pour la science, le premier objectif, c'est d'abord de savoir s'il y a eu de la vie sur Mars. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années, sur la planète Mars, régnaient les mêmes conditions que sur la Terre de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des nuages, une atmosphère, il pleuvait, il y avait des rivières, il y avait peut-être même des lacs, peut-être un océan. L'eau coulait, il y avait une activité tectonique et tout ça s'est arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 3,6 milliards d'années, quand ça se produisait, au même moment, sur la Terre, alors naissait la vie. Donc l'idée, c'est est-ce que les conditions qui ont permis à la vie sur Terre de naître, alors que c'était la même chose sur Mars, ont pu créer ça. Donc le premier objectif, c'est d'aller répondre à la question que vous posez, c'est est-ce que cette vie a existé ? Certains pensent qu'il faut aller sur place pour le savoir.
Enquêter.
Et d'autres pensent, et c'est le cas des Américains avec la mission Mars 2020, c'est qu'en fait, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas ramené des échantillons. Donc l'objectif pour cette mission, c'est d'aller ramasser des échantillons, les mettre dans des petits tubes, et puis envoyer une mission plus tard pour récupérer ces échantillons et les ramener sur la Terre et les analyser dans des laboratoires.
Ouais, c'est fascinant.
Ça, c'est la science. Et la fiction, eh bien, vous savez, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'est la vie vraiment, réellement. Et d'une certaine façon, ce que vous appelez transformer la planète, ce qu'on appelle la terraformation, c'est un petit peu l'apprenti sorcier. C'est-à-dire que si de la vie existait à la surface de Mars, alors ça serait déjà quelque chose de tellement extraordinaire. D'imaginer que ailleurs que sur la Terre, il s'est développé de la vie. Alors, ça veut dire qu'il y en a partout.
Tout est possible.
Ça veut dire qu'il y en a sur toutes les planètes ailleurs. Et donc, ça serait vraiment extrêmement excitant, sans doute plus que de faire une Terre bis.
Ah oui, nous, on est fascinés par ce que vous nous racontez. Merci beaucoup, Lounis, de votre appel depuis Lille. Et du coup, je vais prolonger sur cet aspect-là, parce que, évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus particulièrement. Dites-moi, Jean-François Clairvoy, j'ai lu l'autre jour que la vie extraterrestre était peut-être déjà dans nos veines. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur de l'Institut d'astronomie à l'Université de Hawaï. C'est-à-dire que les formes de vie que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes pourraient être totalement différentes par rapport à la définition de la vie telle qu'on l'entend sur Terre. Vous en pensez quoi au regard aussi de ce que nous disait Alain Siroux ?
D'abord, juste un mot sur la terraformation. La gravité martienne est trop faible pour retenir de l'oxygène si on en met. Donc, de toute façon, quelles que soient les conditions sur Mars, l'hiver, l'été, etc., des humains, en ce qui concerne les humains, il faudra des habitats étanches. On ne pourra jamais vivre à l'air libre sur Mars. Libre. Jamais. Mais bon, on peut inventer des
systèmes artificiels. Vous avez touché nos espoirs, quand même.
Maintenant, pour la vie, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, les astronautes, puisque nous participons à ce que nous appelons les expériences d'exobiologie. L'exobiologie, c'est une science très exigeante. Il faut être à la fois expert en biologie, en chimie, en planétologie, en géologie. C'est la science qui étudie l'origine du vivant, l'évolution du vivant, sa répartition éventuelle dans l'univers, la possibilité du vivant terrestre de s'adapter au milieu extraterrestre. Et à ce titre, on fait voler dans la Station spatiale internationale des êtres vivants terrestres extraordinaires qui survivent au vide et dont le corps varie en température de moins 150 degrés à plus de 100 degrés, les tardigrades. Et donc, le vivant est quand même très, très coriace. Mais ce que me disent les exobiologistes, c'est que si la vie... Enfin, les molécules qui ont le plus de chances de se rencontrer sont celles qui sont les plus répandues dans l'univers. Et les atomes, les éléments chimiques les plus répandus sont ceux dont on est fait. C'est hydrogène, carbone, azote, oxygène. Donc si on rencontre de la vie quelque part, il y a de grandes chances que ce soit une vie carbonée. Ah, oui, effectivement, elle peut être très différente de celle qu'on connaît sur Terre. Mais basée sur le carbone et l'hydrogène.
Jean-François Clairvoy, vous restez avec nous. Je reste encore un petit instant sur la vie sur Mars, parce que voilà, j'avoue, ça m'intrigue particulièrement. Irons-nous vivre un jour sur Mars? Parce qu'aujourd'hui, c'est Elon Musk, le célèbre entrepreneur, hein, qui n'est pas le seul à répondre oui à cette question. La Mars Society, Association Planète Mars pour l'antenne française, c'est vraiment son objectif aujourd'hui. Il faut en sorte de relever tous les défis. Il y a même un concours pour construire une ville habitée sur Mars. Ça, Alain Siroux, ça semble... Oui. Ça
reste... Non, mais je comprends très bien l'envie.
D'accord, ok.
C'est extrêmement compliqué parce que aller sur Mars, et Jean-François peut dans le détail l'expliquer, ouais. C'est d'abord extrêmement difficile de faire le voyage, de s'y poser, d'y vivre, etc. etc. Donc c'est compliqué. Bon. Donc tout projet qui consisterait à dire que c'est demain, vous l'oubliez. Parce que c'est de la propagande. C'est-à-dire que ça n'existera pas avant vraisemblablement des dizaines d'années ou pire.
D'accord. Alors revenons à des choses peut-être plus terre à terre, si je peux me permettre l'expression. On voit bien la concurrence des États et la concurrence des États, mais aussi la concurrence privée. Alain Siroux, aujourd'hui, on en est où?
Écoutez, aujourd'hui, il existe, je dirais, un grand bouleversement de la force spatiale, c'est moins qu'on puisse dire, parce que l'espace est pas seulement de l'exploration, c'est aussi une question de souveraineté, c'est aussi une question d'indépendance, d'accès, c'est de la géopolitique, c'est de la diplomatie économique et c'est de la défense. Donc, vous voyez bien que l'exploration, c'est un des éléments et le vol humain en fait partie. Donc, aujourd'hui, il existe, contrairement au monde d'avant le 21e siècle, des entreprises privées qui sont, entre guillemets, embauchées par les États pour créer une sorte de concurrence des activités spatiales et des domaines. Et on connaît évidemment, SpaceX avec celui qui a inventé la Tesla, donc Elon Musk.
Oui,
et puis Jeff Bezos, par exemple, qui est l'inventeur les GAFA.
Amazon, merci. Pardon.
Ces deux grandes entreprises qui s'ajoutent aux entreprises Boeing, etc., fabriquent leurs fusées, fabriquent leurs propres satellites et aujourd'hui s'imposent comme des nouveaux opérateurs de l'espace. Et on va découvrir, et on découvre déjà, dans le ciel, des centaines de petits satellites de moins de 500 kilos qui sont en train d'arriver comme des, on les appelle des super constellations, mais comme des points supplémentaires dans le ciel. Ça fait hurler les astronomes en disant « mais
il n'y aura plus d'étoiles demain, c'est ce que nous disait Théophile Cossa hier soir ».
Mais le fond du fond du fond de tout ça, c'est de connecter les gens de la Terre entière à Internet. Il y a 3 à 4 milliards de personnes qui ne sont pas connectées, ça veut dire 2 futurs clients. Donc vous voyez, la bagarre, elle est multiple.
Une dernière question, Jean-François Clairvoy, merci d'être resté avec nous. Je rappelle que vous êtes le spationaute français qui a participé à 3 vols spatiaux entre 1994 et 1999 à bord d'Atlantis, la navette américaine. La France dans tout ça, dans cette course aux étoiles, on en est où nous? On investit assez? On est assez ambitieux?
Ah oui, la France a sa propre agence spatiale qui est très performante. Oui. Elle est reconnue, c'est là d'ailleurs la troisième puissance spatiale qui a lancé des fusées, le CNES, qui est elle-même, la France, membre de l'Agence spatiale européenne qui regroupe les efforts de 22 pays. Et on est très fort parce qu'avec des budgets plus faibles que les Américains, on a un niveau de savoir-faire, un tissu industriel, de maître d'œuvre, de sous-systémiers, d'équipementiers, de sous-traitants, qui est très performant. Les Américains se sont mis à genoux pour nous applaudir quand on s'est accosté à notre vaisseau ravitailleur ATV, le vaisseau Jules Verne, quand on s'est posé sur Titan, quand on s'est posé plus récemment sur le noyau d'une comète avec une précision de l'ordre du mètre, même si après l'atterrisseur a rebondi, mais ça c'est une autre histoire. Donc on est très très fort. C'est juste que les scientifiques ont donné l'habitude à nos dirigeants de réussir. Donc quand on a un échec, c'est toujours terrible. Ouais. Mais en fait, on a un tissu de scientifiques, d'ingénieurs et puis aussi de juristes, de comptables. Il faut tous les métiers dans le spatial, qui est très performant. Et pour ce qui est de Mars, Mars, il faut quelque chose. Il faut d'abord le lanceur. Et c'est vrai qu'Elon Musk, peut-être que dans la décennie qui vient, il aura les moyens techniques de lancer du lourd vers Mars, l'équivalent d'un habitat. Maintenant, pour lancer des humains, il faut d'abord faire face aux problèmes physiologiques de la pesanteur très longue. Les experts disent que 2 ans, on sait faire en apesanteur. Au-delà, on ne sait pas. Il faut recréer une gravité artificielle. Oui. Il y a l'aspect des radiations et puis il y a l'aspect psychologique. C'est pour la première fois des humains. Ils ne verront plus la Terre, ne pourront plus parler avec la Terre, ne pourront plus revenir en cas d'urgence. Ça n'est jamais arrivé dans les vols habités qu'il n'y ait pas de scénario de retour tout de suite en quelques heures ou 2-3 jours. Donc, Mars, on a les moyens d'y aller peut-être dans la décennie, mais les premiers humains qui partiront, c'est plutôt dans 20-30 ans, quoi, au mieux.
Bon, eh ben, écoutez, on espère en être. Ou en tout cas le suivre. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Alain Sirou, en 30 secondes, mais même pas, cette planète, on nous dit que cette planète pourrait être habitable demain.
Mars ?
Cette planète,
non, il n'y a que la Terre qui est habitable. Et la chose qu'on a apprise...
J'ai brisé ses rêves.
Non, mais vraiment, la chose qu'on a apprise en allant dans l'espace, c'est à découvrir que la Terre, on le dit, il n'y a pas de plan B, c'est la seule planète habitable. Ouais. C'est
oui, mais sauf que la Terre, elle va disparaître un jour. Donc
tout disparaîtra un jour. Il n'y a rien qui dure toujours, disait le poète.
Bon, allez, merci quand même. Alain Sirou, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes la rédaction du magazine, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, Nathalie Lévy, on va parler musique.
Oui, de la musique. Les victoires de la musique, c'est demain soir. Angèle, elle est dans les coulisses avec nous, elle nous raconte tout.
Oshi, ta marinière sur Europe 1. On va parler de tous les artistes des victoires de la musique dans un instant.
Révélation, Oshi.
Révélation, Oshi. Vous l'avez entendu ce morceau, mais il y en a d'autres à écouter. À tout de suite. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, et vous le savez, tous les jours avant 20h, on parle culture. On prend un temps d'avance ce soir sur Europe 1 parce que les victoires de la musique, c'est demain. Et ben nous, on y est déjà, grâce à Angèle Châtelier.
Ouais, 35e édition. Merci Angèle d'être assortie des coulisses pour venir nous en dire plus. Alors, sont nommés des artistes comme Alain Souchon, on adore Philippe Catherine, Angèle, Clara Luciani, mais aussi des révélations. Alors, dites-nous tout sur ces révélations parce que moi, j'avoue, je suis un peu larguée.
Et ben, il y en a 6 répartis dans 2 catégories, révélations scène et révélations album, 5 femmes, 1 homme, des artistes qui ont fait l'année et qui ont surtout parcouru les routes, comme Oshi, nommée dans la catégorie Révélation scène. Elle est dans le top 5 des artistes qui ont fait le plus de festivals l'année dernière, non sans un brin de fatigue.
Physiquement, ça a été un peu dur, mais en fait, le fait d'être encore récompensé aujourd'hui et que cette bataille, finalement, même avec moi-même et mes problèmes de santé, ait fonctionné, ça a fonctionné parce que aujourd'hui, justement, je suis récompensé pour ça parce que je suis là aujourd'hui.
Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures ? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur ?
À 23 ans, Oshi est aussi une artiste engagée lors d'une manifestation contre la PMA pour toutes. La chanteuse n'a pas hésité à battre le pavé pour répondre à ceux qui s'opposaient à cette loi. Mais Oshi concourt aux côtés de Suzanne. L'Avignonnaise de 29 ans a fait plus de 150 dates l'année dernière pour présenter sa pop synthétique à la Stromae. Le rap est lui aussi représenté avec l'inclassable Aloïs Sauvage. Sur scène, c'est une véritable performance. Il faut dire qu'Aloïs Sauvage est circassienne. Elle s'agrippe sur des foulards accrochés au plafond. Elle prend tout l'espace, peu importe sa taille. Et c'est sur scène qu'elle a trouvé son public. Elle espère nombreux à acheter son premier album Dévorante qui sort à la fin du mois.
À l'horizontale, je te propose qu'on... À l'horizontale, on pourrait peut-être... À l'horizontale, puis on verra si... À l'horizontale.
Bon,
vous êtes largués.
Je me sens très 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 vieille ce soir. Alors allons-y, ces 3 artistes donc sont nommés dans la catégorie Révélation scène. Et à votre avis, parce que vous fredonnez toutes les paroles, vous connaissez tous ces titres, qui est susceptible de remporter la victoire de l'album Révélation ?
Alors le choix est difficile, mais Pomme, Claire Pommée de son vrai nom, a été plébiscitée par la critique. Et à juste titre, Pomme, elle est nommée pour son 2e album appelé Les Failles.
Je ne vais pas sortir.
Un album d'une justesse et d'une beauté rarement vues jusqu'alors. Pomme s'est enfermée dans une maison en Bourgogne pour le composer en seulement quelques semaines. À ses côtés, il y a Malik Djoudi et son deuxième album Tempérament, mélancolique et pop. Il a eu la chance de faire un duo avec l'un de ses mentors, Étienne Dao.
Nous n'avons plus peur de rien. C'est bon, ne t'en veux pas. Si je m'oublie, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Existe, c'est bon, ne t'en veux pas. Insiste, je ne t'en voudrais pas. Si
enfin, la Benjamine de ses victoires s'appelle Maëlle, mais on la voit depuis longtemps. Maëlle, 19 ans, a gagné The Voice en 2018. Pour son premier single, elle s'entourait de Calogero et Zazie.
Toutes les machines ont
malicieuse, talentueuse, l'histoire de l'album de Maëlle est différente de celui des autres. Pendant sa conception, elle passait aussi son bac.
Je mélangeais studio à Paris et retour à la campagne pour passer mes épreuves de philo. Du coup, c'était assez compliqué et vraiment, ça me touche beaucoup. Enfin, je suis très fière de tout ce travail-là et en plus d'être nommée justement aux Victoires de la musique, parce que moi, je compare ça un peu aux César, aux Oscars, les musicaux, quoi. Donc c'est assez fou, j'en revenais pas.
C'était quoi votre sujet de philo ?
C'était sur le travail, on va pas en parler, d'accord ?
Pourquoi vous avez eu une mauvaise note ?
Non, même pas, j'ai eu 13, donc ça va. Mais sur le moment, je me suis dit, ouloulou, qu'est-ce que je vais dire ?
Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole.
Un choix difficile à faire, donc, pour les 900 membres du jury qui voteront pour choisir leur révélation.
Merci beaucoup, Angèle. C'était un grand moment de découverte pour moi ce soir. J'avoue que j'ai une petite préférence pour Maëlle.
Ah, bah voilà, c'est mon choix.
Moi, c'est Pomme.
Vous, c'est Pomme. Oui, ça m'étonne pas.
Bon, on en parlera là.
Ouais, on en parle lundi. Après. Bah, en tout cas, là où je suis plus calée, c'est dans les catégories artistes de l'année.
Voilà.
Hein, Angèle, normalement, Clara Luciani.
Ouais, ça va
tout
vous
ça.
Maîtriser.
Bon,
ouais.
Maîtrise. Catherine Ringer. Hein. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit maintenant. Allez, la parenthèse est refermée. Merci, Angèle Le Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1. C'est demain à partir de 21h, les Victoires de la musique en direct de la scène musicale à Paris. Et vous y serez, enfin pas loin, vous, évidemment, parce que vous les connaissez tous, Émilie Mazoyer.
Oui, évidemment. Moi aussi, moi je suis team Anissa, je suis très Pomme pour les révélations. Et alors, être validée par Émilie Mazoyer, je peux vous dire que là,
ça risque pas de m'arriver. Hein.
Je vais marcher la tête haute dans les couloirs.
Mais non, mais Nathalie, je vous survalide. Non, mais...
je vous survalide, je vais me faire un t-shirt Nathalie Lévy.
Ah ouais,
pour les prochains
Chiche.
Concerts.
Ah ouais. Attendez, je vous prends en main, il y a des caméras qui tournent, on attend la démo.
Je me fais faire un t-shirt avec votre meilleure photo, faites-moi confiance. Et ce soir, alors ça, on continue la découverte, mais ouais. Là ça va vous plaire. C'est une jeune femme qui s'appelle Mélissa Laveau. Elle a grandi au Canada, elle vit désormais en France. Elle est d'origine haïtienne et elle reprend des chansons haïtiennes, les remet au goût du jour dans un très bel album qui s'appelle Radio Sewell. C'est donc en créole haïtien. Et si les Victoires de la musique n'avaient pas enlevé la catégorie musique du monde, eh ben elle aurait pu gagner une victoire.
Allez, bim.
Parce qu'on aurait pu se le dire.
Mais je suis tellement fâchée qu'on ait une victoire cette année.
Oui. Moins de récompenses, plus de catégories soumises au vote du public pour cette édition. On sait, Émilie, que ça ne vous plaît pas. Bon, en tout cas, nous, ce qui nous plaît, c'est de vous écouter.
Merci.
Avec vos invités, on reste branchés. Donc, on se retrouve ici même demain soir, 18h-20h, pour votre grand journal du soir avec de l'info et du sourire. Vous l'avez compris, surtout en fin de séquence, n'est-ce pas, Anita ? Très belle soirée à tous. Merci à toute l'équipe. Isabelle Millet qui prend la suite d'abord. Et puis nous, on reste ensemble pour écouter chaque soir Le Monde Changé.
Évidemment, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.